לחיים לחיים. ברוך השם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné l'occasion de terminer le livre du Tanya. Vous savez, une fois j'avais lu dans un livre qui disait que le Satan, il fait tout pour qu'on ne termine pas un projet qu'on commence. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand on termine quelque chose, ça nous procure une telle satisfaction et après on a envie de recommencer. Comme le Satan, il sait la satisfaction ça va nous procurer. Alors il fait tout pour ne pas que tu arrives à terminer un projet. Et c'est pour ça que chez nous dans la Torah, quand on termine une maserhet, quand on termine un traité de Mishnah, quand on termine un traité de Gemara, et à plus forte raison quand on termine une étude qu'on a pris plusieurs années pour la faire, et qu'on a dû pour ça prendre plusieurs centaines d'heures pour le faire, alors c'est évident que c'est une grande simcha. Et comme on a l'habitude de dire dans un siyum, quand on termine un traité de Gemara, on dit toujours Adran Alar. Adran Alar, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous reviendrons vers toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, quand on termine tout de suite, on a déjà envie de recommencer. Alors, là maintenant, il y a plusieurs parmi nous qui vont reprendre le nouveau cycle qui n'était pas au début du premier cycle. Et pour ceux qui étaient là au début du premier cycle, alors la révision, vous allez voir que là, on découvre des choses complètement nouvelles, des choses vraiment encore beaucoup plus puissantes. J'ai pensé pour ce Fabringen que pour comprendre le Tanya, et pour commencer le Tanya, on va faire que quelques lignes aujourd'hui. Pour commencer le Tanya, il faut d'abord s'imprégner de la vie du Admour HaZaken, qui a une vie assez particulière, avec plusieurs étapes. Et donc, j'ai pensé que pour comprendre le Tanya, on va passer d'abord maintenant quelques minutes à essayer de raconter un petit peu, de faire la biographie de l'Admour HaZaken. Et quand on va comprendre sa vie, quand on comprend le personnage, automatiquement, quand on va après développer le Tanya, il y aura beaucoup de choses qu'on va comprendre automatiquement. Alors j'ai pris des notes, d'accord? Là j'ai préparé 4 pages de notes parce qu'il y a tellement d'éléments que, juste pour la biographie, il fallait tout mettre ça sur ce papier. Donc d'abord je vais dire le Chaim. Kadosh Baruch Hu nous aide à bien dire les choses comme il faut.
Chaim.
L'Admour HaZaken, l'auteur du Tanya, est né Chai Elul, le 18 Elul, en 5505. Il manque un 5, hein, bon. Donc, si vous... c'était le... Donc, il est né, le Chai Elul, le 18 Elul, en 5505. On raconte que... Exactement, je vais parler de tout ça. On raconte que l'Admour HaZaken est né dans la ville de Lyozna, un petit village à côté de la ville de Lyozna. C'est en Ukraine. L'Admour HaZaken était très intelligent dès son plus jeune âge. On raconte qu'à sa bar mitzvah, il a fait une dracha tellement grande que les maîtres de la génération qui étaient présents à sa bar mitzvah, ils lui ont donné le titre Rav Tana Upalig. Ça veut dire, ils lui ont dit, tu es comme un maître de la Gemara. C'est une image. C'est pour dire qu'ils étaient vraiment impressionnés de sa chorma. Il avait une très très grande chorma, et pas que dans la Torah. On dit qu'il avait une grande chorma aussi dans l'astronomie. Par exemple, on dit qu'à l'âge de 9 ans, il a fait un calendrier perpétuel.
Neuf ans.
Enfin, un calendrier avec les règles, etc. Le calendrier hébraïque est très compliqué. Aujourd'hui, on a des ordinateurs, des fonctions informatiques. Et lui, il a fait ça à l'âge de 9 ans. Donc, l'Admour HaZaken, le Baal HaTanya, celui qui a composé le livre qu'on va étudier. C'est pour ça qu'on parle un peu de l'auteur d'abord. Donc, Baruch HaShem, à l'âge de 13 ans, c'était déjà vraiment quelqu'un de très, très, très intelligent. Et dès qu'il est arrivé à l'âge de 18 ans, à l'âge du mariage, il était déjà Baki Béchas. Baki Béchas, ça veut dire qu'il connaissait déjà tout le Talmud, tous les commentaires du Talmud. Il connaissait déjà, d'accord, le Shulchan Aruch, les décisionnaires, d'accord, ainsi que beaucoup d'autres sciences comme la géographie, comme l'astronomie, comme on a expliqué. Comme dit la Mishnah, 18 ans, c'est l'âge où on se marie, Hazak. Donc, à 18 ans, il s'est marié avec une fille qui venait de Vitebsk. Et cette fille s'appelait Sterna Sarah. D'accord, Sterna Sarah. Donc, il s'est marié à l'âge de 18 ans. Il s'est marié, son beau-père était très riche, Baruch HaShem. Et donc grâce à ça, il a pu rester pendant plusieurs années à étudier la Torah sans avoir à se soucier à la Parnassa. Voilà, Baruch Hashem. 4 ans plus tard, donc quand il avait 22 ans, il a dit à sa femme, il lui a dit, écoute, je pense qu'avec les maîtres locaux, je n'apprends plus. Il faut aller chercher autre chose. J'ai besoin d'aller chercher d'autres maîtres. Les maîtres locaux, ça y est, je connais déjà. Presque, il peut leur enseigner. En toute humilité, mais ça veut dire qu'il veut avancer. Il est conscient que localement, c'est pas limité. Ça. Alors, à ce moment-là, il demande la permission à sa femme, comme c'était l'habitude à l'époque. On partait, on demandait la permission à sa femme. Il y avait des gens qui partaient pour des affaires pour plusieurs mois. Il revenait 4-5 mois plus tard. Lui, il n'est pas parti pour les affaires, mais il est parti pour l'étude. On demande la permission à sa femme, on va pour un mois, pour deux mois, pour trois mois. Juste le voyage à lui-même, il prend déjà une semaine. Donc, deux semaines, tu ne vas pas aller pour lui rester une semaine. Donc, on partait seul. Oui, c'était comme ça l'habitude à l'époque. Même pour les affaires. Hein. Vous savez, à l'époque, il y avait des gens, ils partaient pour les affaires. Ils revenaient. Il revenait 6 mois plus tard.
Sans sa femme.
D'accord, sans sa femme. Donc, l'Admor Hazaken a demandé la permission à sa femme pour aller chercher une yeshiva dans laquelle il pourra avancer un petit peu et découvrir de nouveaux horizons. À cette époque-là, dans le monde juif, il y avait 2 grandes communautés. Il y avait la communauté de Vilna et la communauté de Meseritch. La communauté de Vilna, c'était là-bas, il y avait le Gaon de Vilna. Donc là-bas, on était très très fort en Gemara. C'était le siège, le centre, celui qui voulait étudier la Gemara, celui qui voulait étudier la partie dévoilée de la Torah, il savait que qu'il allait là-bas, il était servi. À Meseritch, chez le Magid de Meseritch, qui a remplacé le Baal Shem Tov, donc le successeur du Baal Shem Tov, à Meseritch, du moins la réputation que ça avait, c'est que c'était un endroit dans lequel on était très fort dans le service de Dieu. Ça veut dire par exemple dans la Tfila, dans la Kabbalah, dans la partie cachée de la Torah. Dans la partie dévoilée de la Torah, les rumeurs étaient qu'on était moins fort là-bas. Alors, il a réfléchi avec sa femme, il a dit, maintenant, j'ai 2 options. Il ne peut pas aller pour trop de temps parce qu'il est marié. Donc déjà, sa femme lui donne l'autorisation de partir, c'est déjà gentil. Donc, il a l'autorisation de partir, il va aller pour quelques mois, et il lui dit, voilà, j'ai 2 options. Option Vilna, option Meseritch. Option Vilna, donc je vais apprendre, je vais m'avancer dans la Gemara. Option Meseritch, dans laquelle je vais m'avancer dans l'étude de la, dans la tfila et dans le côté profond de la Torah. Il a réfléchi. Il a dit, j'ai envie d'aller vers de nouveaux horizons. La Gemara, je connais déjà. C'est pas un nouvel horizon. Bon, bien sûr, je vais découvrir des nouveaux chidushim, certainement. Mais c'est pas un nouvel horizon. Par contre, Meseritch, ça, servir Dieu par la prière, la Kabbalah, ça, je connais pas encore. Donc, il a dit, je vais aller à Meseritch. On va tenter le coup. C'était très dur pour lui de faire ce pas-là parce que Meseritch n'était pas du tout son style. Lui, c'était plutôt quelqu'un qui était dans le Talmud et qui était dans le Talmud et qui n'était pas vraiment attiré par le côté ésotérique de la Torah. Mais avec sa femme, ils ont décidé, il allait aller à Meseritch. Il va à Meseritch et quand il arrive là-bas, il rentre. Il était déjà apparemment 10h du matin, enfin une heure déjà assez avancée du matin, et il les voit en train de prier. Il dit quoi ? Et moi, à 10h du matin, je suis déjà en train d'étudier depuis 3-4 heures. À 10h du matin, ils sont en train de prier. Il dit, non, c'est pas pour moi. Et il est ressorti dans l'intention d'aller à Vilna. D'accord ? Il est ressorti. Il a commencé à marcher. Il a fait quelques centaines de mètres, peut-être quelques kilomètres. Et il s'est rappelé qu'il a oublié son écharpe.
Donc on le doit à une écharpe.
Il s'est rappelé qu'il a oublié son écharpe.
C'est comme Yacob quand il a oublié...
Dites le Chaim pour les nouveaux arrivés. Le Chaim.
Il est pas servi notre ami.
Le Chaim.
Alors.
Il a un chat, il conduit, mec.
Il conduit, alors c'est un
demi-heure. Bah oui, voilà. Donc. Non mais, lui il est arrivé à 10h du matin, lui il savait pas qu'en vérité ils étaient là à étudier depuis plusieurs heures et qu'après ils ont commencé à le tuer là. Mais lui il a pas compris ça. Donc il est venu, il est rabotaille. Il a fait un blocage. Et donc, il a dit, je m'en vais d'ici, c'est pas pour moi. Je prends la route pour aller à Vilna. Il a commencé à prendre la route, il s'est rappelé qu'il avait son écharpe. Et là il est revenu. Et quand il est revenu, le Magid Meseritch avait déjà terminé la tefila. Et avec les élèves, ils étaient en train d'étudier la Gemara. Et ils étudiaient la Gemara dans le traité Choulin, la Gemara qui parle de la Réa. C'est quoi Réa ? Réa, c'est dans la cachérisation, dans la cachérisation des animaux, la hanche, etc. C'est très très compliqué à cachériser, il y a beaucoup de la croix très compliquées. Alors dès qu'il est rentré, il les a vus en train d'étudier cette Gemara, il a dit « Ah, cette Gemara, je la connais. Tiens, on va voir comment ils vont l'étudier. » Il est resté par curiosité. Et quand il a vu le brio avec lequel le Maguide de Mezerif était en train d'enseigner à ses élèves, il a dit « Je reste. » Et il est resté. Donc il est resté comme ça. Alors, après le cours, le Maguide de Mezerif lui a parlé, il lui a dit comme ça. Il lui a dit « Je savais que tu allais revenir. » Et tu dis, tu sais d'où je savais que tu allais revenir? Parce qu'avant même que tu viennes, je savais que tu allais venir. D'où je savais? Parce que le Baal Shem Tov m'avait donné ta description. Le Baal Shem Tov était déjà décédé. Avant de mourir, le Baal Shem Tov m'avait dit, un jour tu auras un élève qui sera comme ça et comme ça. Il m'a donné ta description. Cet élève aura du mal à venir chez toi, mais il viendra. Cet élève aura beaucoup de difficultés dans sa vie, mais je serai à ses côtés. Ah, ça l'a intrigué. Il a dit, ah bon, il a dit ça, il a dit que j'aurais beaucoup de difficultés dans ma vie. Il a dit oui. Il a dit que tu finiras pas venir chez moi, que tu auras beaucoup de difficultés dans ta vie, c'est-à-dire que tu auras beaucoup d'embûches dans ta rue, dans ta vie, mais que il finira par être à tes côtés et que tu finiras par gagner, tu finiras par obtenir ce que tu veux. Donc tout de suite, ça l'a accroché, il a dit, Rabbi, je reste avec vous. Il est resté chez Magui de Mezerich. Il est resté 18 mois. Donc entre-temps, il a envoyé des courriers à sa femme pour lui demander de rester plus et plus et plus, etc. Ouais, le beau-père, entre-temps, était furax. D'accord? Ben oui, et quoi? Non, sa femme était d'accord. Sa femme était d'accord, elle sentait que son mari avançait. Non, peut-être que c'est possible qu'ils ont fait les allers-retours, qu'elle a fait les allers-retours, mais en tout cas, il est resté 18 mois à la yeshiva. Il est resté 18 mois à la yeshiva. Et après, bon, après, il a estimé que c'était déjà beaucoup. 18 mois, ça fait combien? Ça fait un an et demi. D'accord? Donc il a estimé que c'était déjà assez. Donc, il est retourné. Il est retourné dans sa ville. Rappelez-vous, sa ville, c'était Lyuzna. Il est retourné dans sa ville. Pas du tout. C'est l'autorisation de sa femme.
Oui, non, mais il faut partir 5-6 mois.
Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, les gens, pour les affaires, ils partaient des mois et des mois, même des années. C'était pas choquant. Il a demandé la permission. Non, attention, Chas v'Shalom. D'ailleurs, en passant, pour ouvrir une parenthèse, il y avait une histoire. Et un stop. Pour faire le Sioum. Alors, Admour Hazaken, qu'on a expliqué, il est resté 18 mois chez le Maguide de Mezerich, avec l'autorisation de sa femme. Au début, il devait rester moins, mais il est resté avec l'autorisation de sa femme. Et au bout de 18 mois, qu'il est resté, alors, il est rentré chez lui à la maison. Et quand il est rentré chez lui, les gens le respectaient énormément, et c'est devenu le Maguide de Lyuzna. Il y avait le Maguide de Mezerich, lui c'est devenu le Maguide de Lyuzna. D'accord. Donc ça a avancé comme ça. Et après, tous les quelques mois, il revenait chez son maître, le Maguide de Mezerich, pour lui poser des questions qu'il avait eues. Donc là, il ne partait plus pour des mois, il partait pour une semaine, deux semaines. Il allait, il posait toutes les questions qu'il avait eues pendant plusieurs mois et son maître lui répondait. On a avancé un peu plus tard, l'année 1770. Civil. D'accord? 1770. Il arrive chez son maître, donc il devait avoir 28 ans comme ça. Il arrive chez son maître. Son maître lui dit, écoute, ça suffit maintenant d'étudier pour toi. Le Maguide de Mezerich, qui est encore vivant. Son maître qui est le Maguide de Mezerich, il lui dit, ça suffit maintenant d'étudier pour toi. Il faut commencer maintenant à transmettre ton savoir. Alors il lui dit, tu vas commencer maintenant par écrire un Shulchan Aruch. Ça veut dire quoi? Le Shulchan Aruch Harav, en se basant sur le Shulchan Aruch qu'on connaît, le fameux Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, il va écrire ce qu'on appelle, ce qui est très connu aujourd'hui, comme le Shulchan Aruch Admour Hazaken. Ça veut dire qu'il reprend le Shulchan Aruch qu'on connaît, et il développe toutes les raisons. Très très intéressant. C'est vraiment quelque chose qui est étudié aujourd'hui de partout. C'est quelque chose de très très puissant. Et donc, son maître, il lui a dit exactement comment ça devait être fait. Il lui a dit, tu vas le faire de telle manière, comment tu vas le composer, comment tu vas le faire. Donc, il a accepté la mission. D'accord. Il a accepté la mission et c'est comme ça que ça s'est passé. Entre-temps, il y a eu une grande opposition qui a commencé contre le chassidisme. C'était relativement calme jusqu'à ce moment-là, mais là ça a commencé à chauffer. Pourquoi ça a commencé à chauffer? Il faut que j'explique un petit peu pourquoi il y avait une opposition. Quelques dizaines d'années auparavant, le Ham Israël était passé par l'épisode de Shabbat Haïtzvi. Je suppose que vous avez dû entendre parler. Le faux messie. C'était quelqu'un qui avait fait croire que des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes avaient cru que c'était le Messie. D'accord? Les sages, au début, ils savaient pas trop parce que bon, c'était à distance, c'est pas comme aujourd'hui qu'on peut communiquer. Donc au début, il y a même des sages qui ont cru en lui. Et après, quand on a compris que c'était un faux Messie et que bon, après, il s'est même converti, etc., enfin, c'est une catastrophe. Mais entre temps, ça a laissé une trace dans l'âme Israël. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de souffrance de ça. Donc du coup, dans l'âme Israël, on était très réticents devant tous les nouveaux projets. Dès qu'il y a quelqu'un qui venait qui dit, moi j'ai un nouveau truc, on dit, attends,
méfiant.
On a payé. D'accord. Tout, dès qu'il y avait une innovation, on était méfiant. Alors, c'est pour ça que quand le Baal Shem Tov est venu, et qu'il a innové une nouvelle shita, une nouvelle approche, et qu'il a dit dorénavant, il faut accorder de l'importance pas seulement aux gens qui savent étudier la Torah, même aux gens qui ne savent pas étudier la Torah. Quand le Baal Shem Tov a dit qu'il faut regarder la neshama et pas seulement le cerveau, il faut voir ce qu'il y a au fond d'une personne, et que même si une personne n'est pas érudit, il a peut-être une grande neshama. Ça, c'est l'approche du Baal Shem Tov qu'on a fait expliquer longuement au cours de Tania. Alors, c'était une approche qui était nouvelle, et on a eu peur, surtout quand comme c'était une approche qui marchait, ça ramenait beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de Chachamim qui ont eu peur qu'on avait un nouveau Shabbat Haïtzvi qui est en train de venir. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'en vérité, cette opposition a duré seulement quelques dizaines d'années. Mais qu'après le décès du Gaon de Vilna, environ une trentaine d'années après le décès du Gaon de Vilna, quand on a vu déjà la deuxième génération de Chassidim qui est venue, qu'on a commencé à avoir les enfants de ces gens-là, parce qu'en général, l'indicateur, c'est les enfants, et qu'on a vu qu'au contraire, non seulement ils ne se sont pas éloignés de la Torah, mais qu'au contraire, c'était des gens qui se sont rapprochés encore plus de la Torah. Donc on a compris que même ceux qui ne sont pas d'accord avec la Shita, mais on ne peut pas dire que c'est une Shita qui est contre la Torah. Donc c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, ça s'est déjà relativement calmé. Mais là, le Baal Shem Tov, l'Admour HaZaken, était en plein milieu du moment dans lequel il y avait une grande opposition, donc on était encore du vivant du Gaon de Vilna. Donc, c'est ce qui s'est passé, d'accord, c'est ce qui s'est passé. Donc on a continué comme ça, donc l'opposition a duré pas mal de temps. Bon, l'Admour HaZaken était prévenu, parce que rappelez-vous que son maître, le Magui de Meserich, l'avait prévenu. Il lui a dit, rappelle-toi, le Baal Shem Tov t'a dit que tu souffriras dans ta vie, tu auras des embûches, mais je serai à tes côtés. Et il le voyait. Il le voyait qu'il avait des embûches et que le Baal Shem Tov à chaque fois était à ses côtés pour tenir. Bon. Entre-temps, quelques années plus tard...
Spirituellement,
bien sûr. Ah oui, c'est le plus dur, c'est tenir spirituellement. Entre-temps, quelques années plus tard, le Magui de Meserich est décédé. D'accord, il est décédé relativement assez jeune. Il est décédé. Et quand il est niftar, alors les élèves se sont rassemblés pour savoir quel est le remplacer. On a voulu au début nommer Rabbi Shneur Zalman l'Admour HaZaken. L'Admour HaZaken, il a refusé. Il a dit non, moi je voudrais qu'on nomme l'élève le plus âgé. L'élève le plus âgé, c'était Rabbi Menachem Mendel de Horodok. Rabbi Menachem Mendel de Horodok était l'élève le plus âgé. Donc Horodok, c'est une ville. Donc c'était un énorme. Il a écrit des livres. Il a écrit des livres qui sont très concentrés. Mais pour comprendre ce qu'il dit, c'est vraiment très très puissant. Des livres très puissants. Donc Rabbi Menachem Mendel de Horodok, c'est lui qui a remplacé le Maguide de Meserich. Seulement, hein, Rabbi Menachem Mendel de Horodok, il a eu beaucoup de mal à supporter l'opposition qu'il y avait contre le chassidisme. C'était trop difficile pour lui à supporter. Vraiment, il n'arrivait pas. Donc, il a décidé de faire sa alia. Puisque je vous ai parlé de Rabbi Menachem Mendel de Horodok, l'histoire raconte que ce Rabbi Menachem Mendel de Horodok, une fois, après le départ du Maguide de Meserich, et quand c'était lui le Rabbi qui avait remplacé le Maguide de Meserich, une fois, il a dit à l'Admour HaZaken, il a dit, est-ce que tu veux pas qu'on aille ensemble voir le Gaon de Vilna? Est-ce que tu veux pas que... Il dit, regarde, c'est une marloquée dans tout l'âme Israël. Est-ce que tu veux pas qu'on aille voir le Gaon de Vilna? On va discuter. Peut-être nous, on se trompe, peut-être lui, il se trompe, peut-être on peut trouver un terrain d'entente. Il faut qu'on discute. Il faut toujours discuter. Et l'histoire raconte, c'est eux-mêmes qui l'ont raconté, l'histoire raconte qu'ils sont partis. Ils sont partis à Vilna. Et quand ils sont partis à Vilna, le Gaon de Vilna, dès qu'il a senti leur présence, il leur a dit dehors, je veux pas vous voir. Ils sentaient comme si c'était les forces du mal, comme ça c'est raconté. Alors eux ils ont forcé la porte, ils sont rentrés quand même. Et l'histoire raconte que le Gaon de Vilna habitait au rez-de-chaussée, il est passé par la fenêtre et il s'est sauvé, il a dit je veux pas les voir. Ils sont restés dans la ville. Ils ont essayé de rencontrer le Gaon de Vilna à trois reprises. Et là au bout de trois fois quand ça n'a pas marché, Rabbi Menachem Mendel de Horodok a dit à l'Admour HaZaken, donc c'était lui le Rabbi, il a dit à l'Admour HaZaken, il a dit, je pense que le moment n'est pas encore venu du ciel, si on va rester ici, on va peut-être faire plus de dégâts que ce qu'on va arranger. Donc il a dit, on partira et peut-être un autre jour, d'accord, un autre jour le moment arrivera. Ça c'était pour la parenthèse de Rabbi Menachem Mendel de Horodok. Bon, je referme cette parenthèse. Donc en tout cas, Rabbi Menachem Mendel de Horodok, on a dit à remplacer le Maguid de Meserich. Et on disait que Rabbi Menachem Mendel de Horodok a eu du mal à supporter l'opposition au chassidisme. C'était trop dur à supporter pour lui. Donc il a décidé de faire sa alia. Il est parti en Israël. À cette époque-là, il y avait un yishuv de chassidim qui habitait à Tzfat, il y en avait qui habitaient à Hebron, il y en avait qui habitaient à Jérusalem. Donc il est parti pour habiter là-bas. Le voyage était très difficile et de manière générale, il a eu tellement de mal à supporter cette machloket qu'il y avait dans l'âme Israël que quelques mois plus tard, il est niftar en Israël. Il est niftar. Et c'était trop dur pour lui. Il n'arrivait pas à supporter. Il est niftar. Et donc c'est pour ça qu'on a eu, grâce à ça, une lettre énorme que l'Admour HaZaken a fait. On l'a fait plusieurs fois au cours de Tania. Lettre numéro 27, que l'Admour Hazaken avait envoyé à ses amis pour les consoler après la mort de Rabbi Nachman de Rodok. Et c'est là qu'il explique que la vraie vie d'un tzadik, c'est la Neshama, vraiment une lettre extraordinaire, qu'on a eu pu étudier ici, au prochain cours de Tania. Donc après, les élèves se sont rassemblés, et ils ont dit, qui c'est maintenant qui va remplacer Rabbi Nachman d'El? Il faut bien un rabbi. Et là, on s'est rassemblés, et qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé que celui qui allait le remplacer, ça allait être le Rabbi Shneur Zalman. Donc Rabbi Shneur Zalman, ses amis sont venus, ils lui ont dit, c'est toi qui dois remplacer, c'est toi qui dois devenir le nouveau rabbi. Donc, il est devenu le rabbi, et lui, il était responsable de toute la Russie blanche. La Russie blanche, c'est lui qui était responsable. Donc l'Ukraine, etc. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'Ukraine, mais c'est plus que l'Ukraine.
La Russie blanche, c'est l'Ouest.
Voilà, l'Ouest de la Russie. Donc, il était là-bas, Rabbi Shneur Zalman était là-bas le rabbi. Bon, là, les choses se sont déjà calmées. Quand il est devenu rabbi, les choses se sont déjà calmées. Il a eu un peu de calme, il a pu, Baruch HaShem, commencer à écrire des livres de Torah, il a pu commencer à former des chassidim, d'accord? Il a pu commencer à bien avancer. À ce moment-là, l'Admor HaZaken, il a compris qu'il devait former des élèves. D'accord, vous allez voir que tout ce que je vous raconte, après, ça va nous aider à comprendre le Tania, parce que quand on comprend sa vie, après, on comprend différemment le Tania. Donc, il a compris qu'il devait former des élèves. Il a formé ce qu'on appelle des Khadarim, des écoles. Dans ces écoles, donc c'était une école pour des adultes, hein, comme on aurait dit aujourd'hui une université, il y avait trois classes. Il y avait Cheder Aleph, Cheder Bet, Cheder Gimel. Pour être admis dans chacun de ces trois Khadarim, il fallait être une sommité. Je vous donne un exemple. Pour être admis au Cheder Aleph, donc le Cheder de plus haut niveau, il fallait connaître par cœur le Chass.
Par cœur.
On t'interroge, tu connais par cœur. Le Midrash, d'accord? Le Kuzari, le Sefer HaEkarim, donc ça c'est deux livres de pensée juive, et le Zohar. Il fallait connaître par cœur, dans les mots. Et après tu viens.
D'accord. Il y avait pas beaucoup de candidats. Alors.
Il avait une trentaine. Il avait une trentaine d'élèves juste dans le premier cheder.
Ah oui.
Après il y avait le cheder. Et après il y avait le cheder bet et le cheder gimel. D'accord. Il y avait la section B et section C. Bon, ça c'était déjà. Il y avait déjà moins de connaissances là-bas. C'était des grandes pointures. Pourquoi? Parce que l'Admour HaZaken a compris la chose suivante. Il a compris, et ça, en vérité, c'est pour ça qu'on appelle ça la Chassidut Chabad. Parce que ce qu'il y a de particulier dans la Chassidut Chabad, c'est que l'Admour HaZaken a compris que pourquoi le Baal Shem Tov était très critiqué? Parce que il n'avait pas construit sa Shita de manière structurée. De manière qu'on puisse l'expliquer, qu'on puisse la répéter à qui que ce soit. C'était pas construit, c'est pas structuré. Donc c'est pour ça que les gens, comme ils comprenaient pas, donc ils se mettaient à critiquer, etc. Lui, Admour HaZaken, il a dit, nous, on va lancer la Chassidut Chabad. Chassidut Chabad, c'est-à-dire que tout doit être structuré, tout doit pouvoir s'expliquer. Après, d'accord, pas d'accord, c'est ton problème. Mais on doit pouvoir l'expliquer. On doit pouvoir le schématiser.
Ça a été simplifié?
Bien sûr. C'est simplifié dans le sens que c'était schématisé. Ça veut pas dire que c'est simple. Mais au moins, d'accord, c'est schématisé dans le sens que tu peux commencer le livre, il y a un livre, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin.
Ça a été éclairci.
Bien sûr, oui, il y a des grands chassidim. J'en parlerai plus tard. Bien sûr, il y a eu des grosses pointures. Énormes. Des chassidim qu'on connaît aujourd'hui, que on dit que c'est des chassidim, qu'en vérité ils auraient dû devenir rabbis, mais ils voulaient pas devenir rabbis pour rester les chassidim de l'Admour HaZaken, tellement ils voulaient rester les chassidim de l'Admour HaZaken. Mais c'était des pointures énormes. C'était bon, avant même de rentrer dans le cheder, on a vu le niveau qu'ils avaient. Des pointures énormes. Donc c'est des gens qui sont venus habiter avec leurs femmes, avec leurs enfants dans la ville de Yozna. Et donc comme ça, ça a continué pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il a eu 20 ans de calme. Calme relatif, bon, bien sûr qu'il y avait encore l'opposition, mais il a eu 20 ans de calme relatif, dans lequel il a pu construire cette yeshiva, avec donc ses trois chadarim, et c'est là que l'Admour HaZaken a commencé à travailler sur le Tania. C'est à ce moment-là, c'est pendant ces 20 ans-là, qu'il a commencé à travailler sur le Tania. Sur le Tania, il a passé aussi 20 ans. C'est un livre qu'il a écrit pendant 20 ans. D'ailleurs, il y a eu plusieurs versions. Avant d'arriver à la version qu'on connaît aujourd'hui, il y a eu plusieurs versions. Alors aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a retrouvé des manuscrits. Et quand on voit les manuscrits et qu'on compare les différences qu'il y a avec les autres manuscrits, des fois, on voit c'est des petites différences. Et des fois, le rabbi passait des cours entiers pour expliquer comment la petite différence a tout changé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chez les chassidim, on dit que le Tania, c'est un petit peu comme la Torah écrite de la chassidoute. Ça veut dire quoi, la Torah écrite? C'est-à-dire de la même manière que quand on étudie le Chumash, chaque mot est précis. Et quand on met un mot à la place d'un autre mot, il n'y a pas de hasard. Et bien chez les chassidim, on sait que chaque mot dans le Tania est d'une extrême précision. Et plusieurs fois, le rabbi passait des cours et des cours entiers pour expliquer comment, des fois, un mot, d'accord, ça change tout. On raconte qu'une fois même, l'Admour HaZaken avait passé 2 semaines à réfléchir, est-ce qu'il devait écrire sur un pasouk Gomer ou V-Gomer. Gomer, ça veut dire, alors en français, il n'y a pas cette différence, parce qu'en français, on dit etc. Mais en hébreu, il y a ou bien tu dis etc. ou bien tu dis et etc. Et les deux se disent. Et le rabbi avait expliqué une fois pourquoi le vav pouvait tout changer. Tout ça pour vous montrer quoi? Pour vous montrer que le Tanya est un livre dans lequel l'Admour Hazaken s'est énormément investi. C'est ce qu'on appelle la Torah chez Birtav, la Torah écrite de la Chassidut. Que de la même manière que dans la Torah écrite, il y a 53 parachas, de la même manière, dans le Tanya, il y a 53 prakim, 53 chapitres. Okay, donc il y a beaucoup de similitudes, c'est pas par hasard, c'est la Torah chez Birtav, la Torah écrite. Donc, ça c'est ce qu'a fait l'Admour Hazaken. Bon. Maintenant, le temps a avancé. Après, Bezrat Hashem, je vous ouvrirai le Tanya, on fera la page de garde dans laquelle on expliquera qu'est-ce que c'est le Tanya. Parce qu'il y a une page de garde. Dans la page de garde, ça c'est comme quand tu achètes un livre, tu regardes derrière, c'est écrit, c'est écrit qu'est-ce que c'est le livre. Et l'Admour Hazaken a écrit ça en quelques lignes. Donc on va le faire pour nous expliquer qu'est-ce que c'est le Tanya. Mais déjà, on comprend le contexte, on comprend pourquoi il a écrit le Tanya. Parce que l'Admour Hazaken a dit comme ça. Il a dit, je veux prouver avec ce livre-là, que le niglé et le nistar, ça veut dire la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah, en vérité, ça forme un seul tout, un seul élément. D'accord? Le pshat, le sens simple et le sod sont complémentaires et l'un a besoin de l'autre. On peut pas comprendre le pshat si on n'a pas compris le sod, on peut pas comprendre le sod si on n'a pas compris le pshat. Et ça, à plusieurs reprises dans Tania, c'est une idée qui revient, que pour comprendre une Gemara, tac, tu dois faire appel au sod. Pour comprendre le sod, tac, tu dois faire appel à une Gemara. On n'arrête pas de jongler. Vous verrez que dans le Tania, on jongle beaucoup. Des fois, dans le même chapitre, dans une même ligne, on jongle beaucoup entre eux. D'un côté, la Gemara, d'un autre côté, le Zohar. Parce que ça, c'est l'approche d'Admour Hazaken, qu'on appelait Shneor. Shneor, en hébreu, ça veut dire deux lumières. Pourquoi deux lumières? Le Maguide de Mezirich lui a dit, on t'appelle deux lumières. Parce que deux lumières, tu auras la lumière de la Torah dévoilée, donc c'est-à-dire de la Gemara, et la lumière de la Torah cachée. Donc la Chassidut. Ça, c'était. Shneor.
Non,
on dit pas Shneor. Ouais, on dit Shneor. On garde le terme or. D'accord? Donc, l'Admour Hazaken, comme ça, a écrit le Tanya. Le Tanya au début c'était uniquement en manuscrit. Donc c'était retranscrit, ça veut dire que les gens se copiaient entre le Tanya, ça n'a pas été imprimé. L'impression existait déjà à cette époque-là. Donc là on était à peu près en 1780. Alors, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc à cette époque-là, le Tanya n'avait pas encore été imprimé. Il était simplement retranscrit et chacun le retranscrivait. Bon. Le problème c'est quoi? C'est que, avec le temps, il y a eu beaucoup d'erreurs, parce que chaque fois qu'on retranscrit, eh ben, il y a des fautes qui se font. Pas seulement ça. Il y a eu aussi des fautes volontaires. Ça veut dire qu'il y avait encore une petite opposition. Il y avait des gens qui, pour faire l'opposition, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des fausses copies avec des bêtises dedans. Comme ça, avec ça, on disait, regarde, t'as vu, il a écrit ça. Donc, les élèves de l'Admour Hazaken sont venus le voir. Eux, ce qui les dérangeait surtout, c'était le fait qu'on n'avait pas un texte qui était sans erreur. Tu lis un texte, tu sais pas s'il y a des erreurs ou il y a pas d'erreur. Tu dis, attends, déjà, je passe du temps à comprendre, si en plus tu me dis qu'il y a une erreur, on peut pas travailler comme ça. Donc, ils sont venus le voir, et leur dit, Rabbi, on voudrait imprimer le livre de Tanya. L'Admour Hazaken a donné deux conditions pour imprimer le livre de Tanya. Quand je dis le Tanya, c'est uniquement la première partie du Tanya. C'est-à-dire les 53 chapitres de l'Écoute à Marie, parce que tout à l'heure, on expliquera que dans le Tanya, il y a 5 parties. Par exemple, le Kuntra Saharan qu'on a étudié, c'est la 5e partie. On a fini avec celle Tanya. Donc, l'Admour Hazaken, quand on lui a demandé d'imprimer, il a donné deux conditions. Première condition, il a dit, vous voulez imprimer, je veux d'abord avoir des approbations. Il leur a donné le nom de deux Chachamim. Il leur a dit, ces deux Tzadikim, c'était Rabbi Meshulam Zusia de Anipoli et Rabbi Yehuda Leib. On l'appelait Rabbi Yehuda Leib. C'était deux Tzadikim qui étaient très respectés. Et il a dit, bon, j'ai écrit une chose, on le transmet entre élèves, c'est une chose. Mais l'imprimer, il y a un proverbe chassidique qui dit que quelque chose qui est imprimé, ça reste pour les générations. Bon, quand c'est un manuscrit, ça va, mais quand c'est imprimé, c'est imprimé. Donc il a dit, je veux d'abord avoir l'approbation de ces deux grands maîtres. Et donc c'est pour ça que cette approbation a été éditée au début du Tanya. D'ailleurs, on raconte qu'au passage, il n'y a pas eu que deux approbations, il y en a eu beaucoup plus que ça. Et on raconte que par exemple, Rabbi Meshulam de Sodanipoli, quand il a reçu le Tanya, donc il a passé plusieurs jours à le lire, et après, avec Rabbi Elimelech, ouais. Et quand il a lu le Tanya, il a dit comme ça, il a eu l'expression suivante, il a dit, je n'arrive pas à comprendre comment il a réussi à mettre un Dieu si grand dans un livre si petit. C'est l'expression qu'il a dit. C'est l'image. Bon. Est-ce qu'on comprend ce qu'il veut dire? Bon, c'est quelque chose de très puissant ce qu'il a dit. Attention. En tout cas, l'Admour Hazaken avait donné deux conditions. Première condition, c'est quoi? C'est qu'il ait des approbations. Deuxième condition, il voulait que ce soit anonyme.
Anonyme.
Pourquoi? Parce qu'il a dit, comme il y a beaucoup d'opposition et que, bon, son nom était déjà grillé, il a dit, je veux pas que mon nom soit écrit. Il voulait pas que son nom soit écrit. Et vous verrez après, on verra dans la suite que dans son humilité, même quand il lit le Tanya, pour lui, il présente ça comme un recueil. Un recueil de conseils. Alors que nous, quand on l'étudie, on sait que c'est beaucoup plus que ça. Donc ça, c'était les deux conditions qu'il a données. On a suivi ces deux conditions. Il a eu les accords, il a eu les approbations qu'il voulait. Il a été imprimé sans nom, d'accord. Donc au début, il a été imprimé en 15 000 exemplaires qui sont partis en quelques semaines. Après, on a rajouté encore 5 000 exemplaires. Et après, la troisième impression, c'était déjà 20 000 exemplaires. Il faut savoir qu'à l'époque, hein, l'impression, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Quand on est 20 000 exemplaires, c'est énorme. Au jour d'aujourd'hui, le Tania a déjà été imprimé plus de 4 000 fois. Aujourd'hui, c'est 4 000 impressions. Non, non, 4 000 éditions. 4 000 éditions. Parce que à la fin du Tania, de d'où c'est ça? À la fin du Tania, vous voyez? Oui. Ça, c'est le rabbi qui avait demandé. Aujourd'hui, en fait, on a beaucoup plus que 4 000 parce que je voulais expliquer tout de suite pourquoi. À la fin du Tania, il y a une cinquantaine de pages dans laquelle c'est écrit en tout petit. Et là, vous voyez des numéros et à côté des noms de villes. Et c'est en fait les endroits où le Tania a été édité. D'accord? Alors pourquoi c'est important de l'écrire dans le Tania, les endroits où il a été édité? Bon, ça va, il a été édité. Ça peut, pourquoi c'est important? Parce qu'en 84, le Rabbi avait dit comme ça. Le Rabbi avait dit que quand le Tania est édité dans une ville, ça amène la Kedusha, ça amène la lumière dans une ville et ça débloque le Satan qui veut attaquer cette ville. Comme ça, il avait dit. Et à cette époque-là, en 84, écoutez bien, c'est très puissant. Le Rabbi avait demandé à ce qu'on imprime le Tania dans un maximum de villes dans le monde pour diffuser la Chassidoute. En France, par exemple, le Tania a été imprimé dans 400 villes. Dans 400 villes. Par exemple, une fois, voilà, une fois, par exemple, quelques mois, j'étais à Toulon, je suis parti à Toulon, j'ai trouvé là-bas, à la synagogue, des Tania. J'ai dit, tiens, prends le Tania, tu regardes, tu vois là-bas, dans le titre, c'est écrit imprimé à Toulon. Parce que c'était des Tania, ils venaient avec un camion, je connais la personne qui s'en occupait en France, ils venaient avec un camion, ils imprimaient sur place, et après on l'envoyait à l'imprimeur pour le relier. Mais il était imprimé sur place. Alors le rabbi avait demandé que quand on imprime le Tania sur place, on étudie aussi sur place. On étudie au moins un chapitre de Tania. Et ça a été fait dans 400 villes en France. 400 villes.
Sur quelle période?
Dans une imprimerie ou au moins dans un camion, mais dans la ville. Parce que le fait d'imprimer un sefer de Chassidout dans la ville, ça amène une lumière de Chassidout dans la ville. Oh, c'est des choses de tes équipes, c'est des choses que.
Vous savez quel étudiant là? Il a eu ça.
Ah, bien sûr, oui.
Ils sont venus imprimer, quand il avait un garage, il m'a expliqué dans le 95, je ne sais pas quoi. Ils sont venus imprimer avec le camion dans son.
À la rue Lamartine, en bas, hein, il doit avoir une cinquantaine de cartons dans la cave. Enfin, moi j'ai vu une cinquantaine. Enfin, chacun des cartons, tu vois les Tania. Un Tania c'est écrit Clichy, le Tania c'est écrit Brissourman, le Tania c'est écrit. Et tout, ils ont fait 400 villes.
C'est sur quelle période?
C'était en 84. En 84, dès que le Rabbi a lancé cette campagne, il y a une personne qui. En 84, en un an, ils ont fait 400 villes. Tac.
Aucune différence dans les livres.
Non, c'est tous les mêmes. Donc en vérité, on a beaucoup plus que 4000 aujourd'hui. Parce que si on compte toutes ces éditions qui ont été faites, on a beaucoup plus que 4000. De très très loin. Bon. En tout cas, donc le Tania, on a expliqué, le Tania a été imprimé. Et là, quand le Tania a été imprimé, c'est là, comme on dit en Chassidout, on explique souvent, que quand il y a une grande lumière, alors automatiquement, va venir les épreuves. Et le fait que les épreuves vont venir, c'est une preuve que la lumière était importante, et c'est une preuve qu'en vérité, ce qu'on est en train de faire est très important. S'il n'y a pas d'épreuve, c'est que c'est pas normal. Comme ça, en tout cas, on dit que quand le projet est très grand, le Satan, il fait tout pour embêter. Des fois, on a du chesed, Dieu nous embête pas, mais quand le projet est important, Dieu laisse pas passer comme ça. Et là, quelques temps après que le Tania a été édité, alors, à ce moment-là, il y a eu une dernière opposition contre l'Admor HaZaken. Alors, comment ils ont fait? Comme ils ont vu qu'ils arrivaient pas à arrêter le chassidisme, il y a des gens qui sont opposés au chassidisme, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont attaqués sur la chose suivante. À cette époque-là, vous savez que la Russie était en guerre contre l'Empire ottoman, l'Empire turc. D'accord. Donc là, elle était en guerre entre l'année 1787 et 1792. Donc ils étaient en guerre. Et c'était pendant cette période-là que l'Admour HaZaken y ramassait beaucoup d'argent pour l'envoyer en Eretz Israël. Des grosses sommes d'argent. Pour l'envoyer au Yeshivot en Eretz Israël. Et là, ceux qui étaient opposants au chassidisme, qui n'étaient même pas des rabbanim à ce moment-là, hein, ceux qui s'opposaient n'étaient même plus des rabbanim. Pour s'attaquer, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, oui, ils sont partis voir le gouvernement, ils leur ont dit, voilà, il y a un traître parmi nous. Voilà, il y a un traître, il envoie de l'argent à l'Empire ottoman, à l'Empire turc. Donc, c'est un traître, et donc il faut le juger en tant que tel. Donc bien sûr, comme c'était une guerre, comme on connaît dans l'histoire, c'était une guerre qui a fait couler beaucoup de sang. Donc, On va faire une petite pause, on va chanter un petit peu, après on va continuer. Alors on va chanter une chanson. On va chanter une chanson. Vous savez que l'Admour Hazaken est aussi compositeur. On va chanter une chanson qui a été composée par l'Admour Hazaken, que vous connaissez certainement. Keliata Veodeka Eloka Yavomemeka Keliata Veodeka Eloka Yavomemeka Keliata Veodeka Elokai Aromemeka Kegli. David, on fait une tournée. Veodeka Elokai Aromemeka Eliata Veodeka Elokai Aromemeka Keliata Veodeka Elokaya Romemeka Keliata Veodeka Elokaya Romemeka Keliata Veodeka Elokaya Romemeka Chaim Lechaim. Chaim Lechaim. David, est-ce que tout le monde a été servi?
Non, David, il s'est pas servi.
C'est en cours.
Mendy, il est où ton verre?
Le verre de Mendy est vide.
Il faut que je ressuscite, moi.
Non. Là, on voit que tu perds un peu le rythme, il faut recharger.
Zaken, chez nous, c'est écrit dans la Gemara, Zaken, Zeshekana Chochma. Zaken, c'est celui qui a acquis la sagesse. Ça veut dire qu'on l'appelait le sage, ça veut dire que dans toute la Russie, dès qu'on avait des grandes questions importantes, on se disait on va aller voir le sage. Alors qu'il était jeune, vous savez qu'il est décédé jeune, il est décédé à 65 ans. Depuis l'âge de 50 ans déjà, on l'appelait le vieux, le sage. Zaken, je pense que vous traduisez Zaken par vieux, mais en vérité on devrait traduire par le doyen. C'est ce que je veux dire? C'est un terme plus, moins...
C'est le bon terme doyen.
Parce que vieux, c'est vrai que c'est un terme péjoratif, on n'aime pas le mot vieux aujourd'hui. Non, on entend le mot vieux, on a peur. Oui, vous savez, on dit l'Admour Hazaken, en passant, parce qu'on parle d'Admour Hazaken. C'est vrai, le Chaim, le Chaim. Ce Benita, il a posé une question.
Écoutez, il a plein de...
Il a plusieurs noms, plusieurs noms. Rabbi Shneur Zalman, Baalatania. Vous savez, on dit que l'Admour Hazaken, puisque tout à l'heure j'ai parlé de l'enfance de l'Admour Hazaken, on n'a pas beaucoup parlé de l'enfance. On dit que l'Admour Hazaken, il ne savait pas sonner le chauffard. Chaque année, il y avait un de ses chassidim qui sonnait le chauffard. Et une fois, on a posé la question, je crois que c'était à sa femme, on a posé la question, on a dit, mais comment c'est que votre mari ne sait pas sonner le chauffard? Vous savez ce qu'elle a répondu? Elle a dit, parce que mon mari n'a jamais été enfant. Et les gens, ils apprennent à sonner le chauffard quand ils sont enfants. Et quand on est enfant, quand on a, voilà, comme mes enfants, là, ils ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, là, qu'on prend, on s'amuse, etc. Et c'est comme ça qu'on apprend. Mais t'apprends pas à sonner du chauffard à 20 ans. Et donc, toute sa vie, même quand il était enfant, il était toujours adulte dans sa tête. Comme on a expliqué au début du cours, on a raconté le, on a raconté son histoire. Bon. Le Chaim, le Chaim. Alors, donc on racontait que l'Admour Hazaken, suite à l'impression du Tania, comme il y a une grande lumière qui est descendue dans le monde, une lumière qui va éclairer des centaines de milliers de juifs, alors le Satan voulait avoir sa part. Et c'est là que le Satan est venu, il a dit, c'est pas possible celui-là, il faut l'arrêter, il faut le mettre en prison. Donc il y a eu des gens qui sont venus accuser, des gens qui n'étaient même pas des rabbins, qui sont venus accuser, et qui ont dit, l'Admour Hazaken travaille avec l'Empire Ottoman, l'Empire Turc, donc c'est un traître. Donc quand on a transmis ça au gouvernement russe, tout de suite ils l'ont arrêté, bien sûr. La traîtrise, c'est très grave. Donc on l'a arrêté. On l'a arrêté avec la totale, quoi. Ça veut dire que emprisonnement, dans le carrosse noir. À l'époque, le carrosse noir, c'était pour les gros, d'accord. Carrosse noir, on l'a envoyé à la prison de Saint-Pétersbourg. C'était la big prison, d'accord. Pétersbourg, pour pas dire Saint, voilà. Alors c'était une prison dans laquelle, en général, on rentrait, mais on ressortait pas. C'était une prison qui était connue comme ça. C'était une prison qui était tellement grave qu'on ne pouvait même pas l'accéder par la terre. Oui. Il fallait passer par un fleuve pour l'accéder.
Alcatraz.
D'accord, d'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires à propos de l'emprisonnement. On raconte à propos de l'emprisonnement que le Rav Levi Asimov, qui nous a fait la conférence, je vais juste raconter quelques anecdotes, qui nous a fait la conférence samedi soir, il nous a raconté que lorsque l'Admour Hazaken a appris qu'il allait être emprisonné, il a su un jour avant qu'ils allaient venir. Alors, il a posé la question à un de ses grands chassidim, qui s'appelait Rabbi Shmuel Munkes, un grand chassid. Il lui a posé la question, il lui a dit, d'après toi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'enfuis? Ou est-ce que je me rends? Parce qu'il pouvait s'enfuir encore. Alors, attendez, il a posé la question. Alors, son chassid lui a répondu comme ça, quelque chose de très puissant. Il lui a dit de deux choses. Soit tu es vraiment un rabbi, enfin vous êtes vraiment un rabbi, en hébreu il y a tu, d'accord? Soit vous êtes vraiment un rabbi, et dans ce cas-là, rien vous arrivera. Car même si vous irez en prison, mais rien vous arrivera. Soit vous n'êtes pas un rabbi. Et si vous n'êtes pas un rabbi, de quel droit vous avez enlevé le plaisir de milliers de chassidim qu'à cause de vos livres, ils sont en train d'enlever le plaisir de la vie? Quand l'Admour Hazaken a entendu ça, il a dit, t'as raison, je reste. Il est resté. Et donc, on a expliqué qu'il s'est fait emprisonner. Et la route a duré longtemps pour aller depuis Lyuzna jusqu'à Pétersbourg. La route a duré longtemps. Et à un moment, c'était vendredi après-midi. Et l'Admour Hazaken a dit, moi je veux m'arrêter pour Shabbat. Là, on dit, tu veux t'arrêter pour Shabbat? Elle dit, où tu es? T'es en prison, on t'amène en prison là. Elle dit, moi je veux m'arrêter pour Shabbat. Ils avancent, il y a une première roue du carrosse qui lâche. C'est bon, c'est pas grave. On répare la roue, d'accord? Deuxième roue du carrosse qui lâche. Bon, c'est pas grave, on répare la roue. On avance encore, il y a un des deux chevaux qui meurt. D'accord, c'est pas grave, on va continuer avec un cheval, on avance doucement. On avance encore. Ça, en passant, c'est une histoire qui a été racontée dans le tribunal, ça veut dire dans le jugement. Ça a été raconté, dans le rapport, ça a été raconté par eux-mêmes. C'est par des goyim que ça a été raconté. Donc, on avance encore, il y a un cheval qui tombe. Bon, on avance encore, l'autre cheval il tombe. Alors là, ils ont dit, ils n'avaient pas le choix, ils ont compris qu'ils avaient affaire avec un grand. Ils se sont arrêtés à côté d'un arbre et c'est là-bas qu'ils ont passé le Shabbat. Le temps qu'ils ramènent un autre cheval, etc. et tout. C'est là-bas qu'ils ont, l'Admour Hazaken a pu passer le Shabbat. Et ça veut dire qu'avec ça, le Rabbi, il avait expliqué une fois qu'on voit que même dans l'épreuve, Akadosh Baruch Hu, comme Saint Tzadik, il lui montre que t'inquiète pas, je suis derrière toi. Ça veut dire que l'Admour Hazaken, s'il voulait, il aurait pu décider que l'emprisonnement s'arrête. Saint Tzadik, c'est pas quelqu'un comme nous. Mais, il y avait un Inyan, il fallait que si Dieu a décidé, alors Dieu a décidé. Ensuite, quand ils ont pris la fameuse barque pour aller à la prison, parce qu'il fallait prendre une barque, l'Admour Hazaken, ça faisait plusieurs jours qu'on n'en voyait pas la lune. Et là, il a vu la lune. Et vous savez que quand on veut faire Kiddush Levana, il faut être immobile. On ne peut pas bouger. Donc il a demandé gentiment à celui qui conduisait la barque, il lui a dit, est-ce qu'on peut s'arrêter? J'ai une prière à faire. Alors l'autre aussi, qui ne connaissait pas apparemment le passé, il lui a dit, mais attendez, c'est là-bas la prison. Alors il a demandé gentiment, l'autre il n'a pas voulu s'arrêter. La barque s'est arrêtée. On rame, ça ne bouge pas. Alors, là, l'Admour Hazaken, il lui a demandé, il lui a dit, alors maintenant, est-ce que vous êtes d'accord? Il a dit, oui, je suis d'accord. Alors, la barque a recontinué à avancer, et là, il a arrêté. Alors, une fois dans un Famregen, il a expliqué, il a dit, mais puisque la barque était déjà arrêtée, pourquoi il lui a demandé de relancer et de l'arrêter? Il avait expliqué, le rabbi, que parce qu'en vérité, pourquoi il a fait ça, l'Admour Hazaken? Parce qu'il voulait faire une mitzvah dans les lois de la nature. Il voulait pas que ça vienne par un miracle. C'est pour ça qu'il a dit, bon, s'il faut l'impressionner un peu, on l'impressionne un peu, mais la mitzvah, elle doit être faite dans les lois de la nature. Que le non-juif lui-même comprenne qu'il doit s'arrêter. Il s'est arrêté, il a fait Birkat HaLevana. Donc ça aussi, ça a été raconté dans le jugement. Il est arrivé donc à la prison. Il est resté là-bas 52 jours. Et le 53e jour dans la prison, d'ailleurs en passant, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans la prison. Quand il était en prison, pendant donc ces 53 jours, donc 53 jours qui correspondent aux 53 chapitres du Tania, il n'y a pas de hasard. Il y a vraiment chaque chose qui correspond. Donc vous savez, dans les prisons russes, je ne sais pas comment c'est dans les prisons françaises, mais dans les prisons russes, on fait beaucoup de choses pour déstabiliser une personne. Une des manières pour déstabiliser une personne, c'est quoi? C'est de lui faire perdre la notion du jour et de la nuit.
Comme au casino.
D'accord? Donc on lui fait perdre la notion du jour et de la nuit, c'est-à-dire on te met dans une pièce, on te réveille en plein milieu de la nuit, on te dit, vas-y, c'est il est midi, qu'est-ce que tu fais? Comme ça, on déboussole complètement la personne, on déboussole l'horloge biologique. Et quand l'horloge biologique est déboussolée, automatiquement, la personne perd les pédales. Et donc, on raconte qu'ils ont commencé à s'amuser comme ça avec l'Admour Azaken. Et une fois comme ça, il y a un geôlier qui rentre dans la cellule et qui lui dit, mais levez-vous, il est midi. Enfin, non, il lui dit, pourquoi vous n'allez pas dormir? On est en pleine nuit. Et l'Admour Azaken lui répond, il lui dit, non, il est 2 heures l'après-midi. Il dit, mais d'où vous savez? Qu'est-ce qu'il répond? Il lui dit parce que chaque heure de la journée, il y a une combinaison différente du nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kevavke, qui éclaire. Et par rapport à la combinaison, je sais l'heure. Les minutes, je sais pas, mais l'heure, je sais.
C'est lui qui les a rendus fous, alors.
Attendez, j'ai pas fini. Alors, au début, les chassidim, entre-temps, étaient très angoissés parce qu'ils avaient aucun signe de vie de l'Admour Azaken. Est-ce qu'il est toujours en vie? Est-ce qu'il a été exécuté? On ne sait pas. Personne ne savait qu'il était à Pétersbourg. Personne ne savait qu'il était là-bas. Alors, on raconte que l'Admour Azaken, quand il est rentré là-bas, il a fait la grève de la faim. Il voulait pas manger cachère. Il voulait pas manger, pardon, non cachère. Non, mais vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Quand il est arrivé, ça a duré comme ça plusieurs jours, il a pas mangé. Alors, il y a un ministre qui est venu le voir, enfin quelqu'un, un responsable quoi de la prison, qui est apparemment le ministre des prisons, qui est venu le voir et qui lui a dit, mais d'après votre loi, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites, vous êtes en train de vous suicider, vous allez mourir. Alors l'Admour Azaken aurait répondu, il a dit, je préfère donner ma vie pour ça et ne pas manger quelque chose de pas cachère. Comme ça il a répondu. Et alachiquement c'est moutard, quelqu'un qui veut donner sa vie, comme on a expliqué Shabbat pour ceux qui étaient là au cours vendredi soir, celui qui veut donner sa vie, il a le droit. Bon, ça a duré plusieurs jours, il est en train de s'affaiblir et on a compris qu'on n'allait pas gagner le bras de fer. Alors, ce même ministre, il est revenu le voir, il a dit, bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, il a dit, je vais manger cachère. Il a dit, où on va vous trouver manger cachère maintenant? Il a dit, voilà, il lui dit, c'est très simple. Il lui a dit, avant de partir de chez moi, j'ai donné l'instruction à un de mes chassidim, je lui ai dit de venir à Pétersbourg. Je lui ai dit de venir. C'est-à-dire, en d'autres termes, je savais que j'allais arriver ici. Et je lui ai dit d'aller tel qu'il était habillé. Donc, probablement, il doit être maintenant en train de tourner dans les rues, et voilà comment il est habillé. Donc, le ministre, il s'exécute. Il commence à tourner dans les rues à la recherche d'une personne qui est habillée avec des vêtements chassidiques. Il l'a repéré au bout de quelques minutes. Et il l'arrête, il lui dit, je viens vous voir de la part d'Admour Azaken, est-ce que vous vous appelez un tel et un tel? Alors l'autre qui a eu peur, il a dit non, je m'appelle pas comme ça. Alors l'autre, il revient voir l'Admour Azaken, il lui dit, j'ai vu quelqu'un qui correspond à votre description, mais il a dit que c'est pas lui. Et il lui a dit non, il a dû te donner ce nom, t'inquiète pas. Va le voir, et tu lui dis une deuxième fois, tu lui dis, tu viens de ma part et tu lui donneras tel et tel signe. Et là, il revient le voir, il lui donne tel signe, l'autre dit, bon, d'accord, effectivement, il dit, bon, qu'est-ce que veut le rabbi? Le rabbi veut manger. Il n'a pas mangé, ça fait plusieurs jours. Alors, il a dit, qu'est-ce qu'on peut lui donner à manger? On a discuté avec un docteur. Le docteur a dit, il faut lui donner une soupe. Maintenant, l'Admour Azaken avait dit à ce ministre, il a dit, moi, je prends, mais à condition que vous me garantissez que personne touche à la nourriture. Ça veut dire, vous prenez le plateau, vous me l'amenez tel quel. Voilà. Vous le recevez, vous l'amenez tel quel. Il lui a promis de le faire comme ça. Et donc, on lui donne un plateau, et dans le plateau, l'autre, comme il a su qu'on n'avait pas touché le plateau, il a écrit un petit papier en dessous, qu'il a mis en dessous de l'assiette, dans lequel il a écrit, je veux savoir qui est le destinataire de, je veux m'assurer, quoi, qui est le destinataire de ce repas. Donc, on amène le plat à l'Admour Azaken, l'Admour Azaken mange la soupe, enfin, boit la soupe, d'accord? Il répond dans le papier, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, je suis un tel, je suis là-bas, et bon, Baruch Hashem, je suis en vie. D'accord? Il remet le papier, et on renvoie comme ça, et bon, l'autre, comme il a pas touché parce qu'on l'a dit de pas toucher, comme ça, le chassidim, au moins, on sut que le rabbi était en vie. Pour eux, c'était déjà une grande simra de savoir qu'au moins, il était en vie. D'accord? Entre temps, la rumeur a commencé à venir dans les hautes sphères du gouvernement, qu'il y avait quelqu'un de très grand qui était en prison, que bien qu'il était encore en prison parce qu'on n'avait pas encore réussi à On n'a pas encore réussi à terminer l'enquête, à savoir est-ce que c'était un traître ou pas, mais on a su que c'était quelqu'un de très intelligent. Alors, il y a un des ministres qui était très versé dans la Torah, qui est venu le voir. C'est pas juif. Il est venu voir l'Admour Azaken, en prison. Il est venu le voir dans des vêtements civils. Et dès qu'il rentre, l'Admour Azaken se lève, et il fait la bracha qu'on fait quand on voit un roi, quand on voit un ministre. Alors l'autre lui demande, il dit, mais qu'est-ce que vous faites?
Oui, oui.
Donc il lui demande, il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il lui dit, je fais la bénédiction qu'on fait devant les ministres. Il dit, mais je suis pas ministre. Il lui dit, si, vous êtes ministre parce que j'ai vu autour de vous une aura de lumière qu'il y a autour des ministres et autour de moi. Bon. Il dit, ok, d'accord. Alors, donc il se lève, etc. L'autre, il lui dit, je vous en prie, asseyez-vous, les deux s'assoient. D'accord? Il y a le mieux parfum, voilà. Il s'assoit. Il lui dit, j'ai une question à vous poser. J'ai appris la paracha Bereshit dans la Bible. Et dans la paracha Bereshit, c'est écrit que Dieu parle à Adam Harishon et il lui dit, Ayeka, où es-tu? Alors, il pose la question à la Borzaken. Il lui dit, mais est-ce que Dieu ne sait pas où Adam se trouve? Alors, l'Admour Hazaken lui répond la réponse de Rashi, sans lui dire que c'est la réponse de Rashi. Ouais. Il lui dit oui, c'est, il lui dit, c'était une manière pour Akadosh Baruch Hu de rentrer dans la discussion avec Adam. Comme Adam venait faire une faute. On peut lui dire directement pourquoi t'as fait la faute. Quand tu rentres dans une discussion avec quelqu'un, tu lui dis, ah, où tu es, comment ça va? Alors, le ministre répond, il dit, non, la réponse de Rashi, je la connais. C'est ça qu'il répond. La réponse de Rashi, je la connais. Je veux votre réponse à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, l'Admour Hazaken lui répond, l'Admour Hazaken répond à ce ministre, il lui dit, quand Akadosh Baruch Hu dit Ayeka, ça veut dire Dieu il parle à Adam Harishon et Dieu il parle à chacun de nous. Il lui dit Ayeka, où tu en es dans ta vie? Ça fait tant et tant d'années, ça fait 62 ans et 8 mois que tu es en vie. C'était pile l'âge de l'autre. D'accord? Ça fait 62 ans et 8 mois que tu es en vie. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Où tu avances dans ta vie? Ça c'est Ayeka. Ayeka c'est où tu en es dans ta vie. Bon. Là, l'autre il a compris qu'il avait affaire avec un grand. Alors il lui a dit, écoutez, on va accélérer les choses. Bon, j'ai compris, vous êtes un grand. Qu'est-ce qui se passe? De quoi on vous accuse? Il dit, écoutez, moi, j'ai rien fait. Nous, on a envoyé de l'argent dans les yeshivot en Israël. Moi, j'ai rien à faire avec votre guerre. Je respecte le gouvernement. On prie pour le gouvernement. On n'a rien à faire avec tout ça. Alors, dans ce cas-là, on a fait un jugement. C'était un jugement qui était très, très compliqué. Et ces dernières années, en 91, quand en Russie, on a commencé à accéder là-bas aux archives, on a découvert les archives. Donc, dans les archives, on a découvert là-bas le protocole de ce jugement, qui était écrit en russe, d'accord? Donc on a le protocole qui a été traduit, qui a été d'ailleurs, ce qu'on a en français, c'est la traduction, d'accord? Et donc ça a été, c'est une traduction, grâce à ça aujourd'hui, on a le protocole officiel des questions, donc du questionnaire qu'on a eu. Donc c'était un questionnaire qui était principalement sur des questions sur la chassidoute, etc., pour savoir qu'est-ce que c'était, parce que c'était nouveau. Ok. Donc on a dit, il est resté en prison pendant comme ça pendant 52 jours, d'accord? Et le 53e jour, d'accord? Non, presque. Et donc, l'Admour Hazaken était en prison pendant 53 jours. Et le 53e jour, quand il était en prison, on est venu annoncer sa liberté. Et l'Admour Hazaken était en train d'étudier le verset, le psaume 55, Padav et Shalom Nafshi. Parce que, pour passer le temps, toute la journée, qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait de la Gemara, il se commentait des versets, etc. Et là, à ce moment-là, il était en train de se commenter le verset 50, le verset numéro 19. D'accord? Du 55e chapitre de Tehilim qui commence par Padav et Shalom Nafshi.
Il avait un matériel pour étudier?
Non, rien. Padav et Shalom Nafshi, c'est-à-dire mon âme a été rachetée en paix. Et là, l'Admour Hazaken a raconté, il a dit, quand j'étais en train de lire ce verset, à cet instant même, on est rentré pour m'annoncer ma libération. Très bien. Donc, il y a une grande simcha chez les chassidim. D'accord? Il y a une grande simcha chez les chassidim. Et Baruch Hashem, grâce à ça, l'Admour Hazaken a pu continuer. D'ailleurs, en passant, une petite anecdote aussi. On raconte que lorsqu'il était en prison, il a reçu la visite dans la prison du Baal Shem Tov et du Magid de Meserich. Maintenant, les deux étaient déjà décédés. D'accord? Et pour vous montrer à quel point on prend ça au sérieux, quand en 91 on a pu rentrer dans cette prison-là, quand l'URSS s'est effondré, donc un peu après que l'URSS s'est effondré, il y a des gens qui sont partis dans cette prison. Et avant de partir dans cette prison, ils ont annoncé au rabbi, ils ont dit voilà, on va aller dans cette prison, dans la prison dans laquelle le rabbi précédent, l'Admour Hazaken était. Et le rabbi leur a demandé la chose suivante. Il leur a dit, est-ce que vous pouvez regarder, est-ce que dans la pièce dans laquelle l'Admour Hazaken était, trois personnes peuvent rentrer? Ça veut dire qu'il a pris très au sérieux. Quand on a dit qu'il y a le Baal Shem Tov et le Magid de Meserich qui sont venus du monde de la vérité, ça veut dire qu'ils étaient là. Alors l'histoire raconte qu'ils sont venus le voir et que l'Admour Hazaken a reconnu le Magid de Meserich et il a demandé au Magid de Meserich, il a dit, qui est le sage qui est avec vous? Il a dit, c'est le Baal Shem Tov, qu'il ne connaissait pas. Alors, l'Admour Hazaken était en pleurs. Il leur a posé la question, il a dit, mais pourquoi ça m'arrive tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on lui a répondu, on lui a dit, tout ça, ça t'arrive parce que tu as décidé de diffuser la chassidoute. Des choses qui étaient avant des secrets de la Torah, qu'il n'y avait que certaines personnes qui le connaissaient seulement, les gens qui étaient déjà bien avancés dans la Gemara, etc., dans la Mishnah, dans le Zohar, des gens qui touchaient à ça. Là, maintenant, vous avez décidé de le diffuser à tout le monde, même à des gens qui n'ont jamais touché à la Gemara, qui n'ont jamais touché à la Halakha. Et donc, ça, dans le ciel, ça fait une accusation. Alors l'Admor Hazaken, il a posé la question, il a dit, et si je sors de prison, qu'est-ce que je fais? J'arrête tout? Alors il lui a répondu comme ça. Ils lui ont dit, maintenant que tu as commencé, tu vas sortir, et quand tu vas sortir, tu feras encore plus que ce que tu as fait avant. Et on a vu dans les discours de l'Admor Hazaken, que les discours de l'Admor Hazaken avant de rentrer en prison, étaient des discours qui étaient très courts, très concentrés, très condensés. Et quand il est sorti de prison, c'est là que les discours sont devenus beaucoup plus longs, beaucoup plus développés. Donc le Tanyan a expliqué que c'était, en fait, c'était édité principalement avant qu'il rentre en prison. Ok. Bon, on va accélérer un petit peu parce que là, je vais arriver au Tanya. Ensuite, l'Admor Hazaken, d'accord? L'Admor Hazaken, vous êtes donc, quelques dizaines d'années plus tard, l'Admor Hazaken, donc, devait avoir, là, dans les, il était à la fin de ses 50 ans, donc il devait être vers 58 ans comme ça. Il y a eu Napoléon qui est rentré en guerre contre la Russie. Une guerre qu'on connaît bien. Et il est rentré en guerre contre la Russie. Et là, on raconte que il y avait une marloquet parmi les sages juifs, à savoir, pour le Ham Israël, qu'est-ce qui était plus intéressant? Enfin, pourquoi on devait prier? Parce que nous avons la Emouna que Dieu écoute notre filote. Mais la question est pourquoi on devait prier? Est-ce qu'on devait prier pour la victoire des Russes? Ou est-ce qu'on devait prier pour la victoire de Napoléon? Il y avait une marloquette. D'un côté, il y avait ceux qui disaient que c'est mieux que Napoléon gagne, parce que Napoléon a amené avec lui la liberté. Donc la liberté, ça veut dire que grâce à ça, on pourra servir à Kadosh Baruch Hu tranquillement, sans problème, sans être oppressé. Mais d'un autre côté, il y avait des autres qui disaient...
Les Juifs étaient déjà émancipés en France à ce moment-là.
Oui, mais ceux qui étaient en Russie n'étaient pas émancipés. Ceux qui étaient en Russie, l'Ascala ne les avait pas encore touchés.
Il y avait mauvaise presse, Napoléon, chez les Russes.
Alors justement...
Il disait que c'était un satan ou je ne sais pas quoi.
Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Il y avait une marloquette parmi les sages, même chez les Chassidim. Marloquette, les Shem Shamaim. Une marloquette chez les sages, à savoir... Qu'est-ce qui était plus intéressant? Est-ce que c'est plus intéressant pour les Juifs que Napoléon gagne? Ou est-ce que c'est plus intéressant que l'autre va gagner, que le tsar va gagner? L'Admor Hazaken était de l'avis que c'est plus intéressant que le tsar gagne. Pourquoi? Parce qu'il avait dit comme ça. Il avait dit, si Napoléon va gagner, les Juifs iront mieux matériellement, mais spirituellement, ils vont s'émanciper.
Ils vont
s'assimiler. Si par contre, les Russes vont gagner, matériellement, les Juifs iront encore plus mal, mais spirituellement, ils tiendront. Donc lui, l'Admor Hazaken, il a dit, moi, je pense qu'il faut prier pour que c'est les Russes qui gagnent. Et il ne s'est pas seulement arrêté aux tfilotes, il ne s'est pas seulement arrêté aux prières. L'Admor Hazaken avait un chassid qui s'appelait, tout à l'heure, vous avez parlé de ces chassidim, vous avez demandé, est-ce qu'on connaît ces chassidim? Les 30, un des 30 chassidim de ce fameux cheder s'appelait Rabbi Moshe Maizlish. Ce Rabbi Moshe Maizlish était quelqu'un de très intelligent, très très doué, pas que dans la Torah. Et donc, on raconte que ce Rabbi Moshe Maizlish, l'Admor Hazaken l'a envoyé, il lui a dit, tu vas être mon espion. Tu vas être mon espion. Et donc, on l'a envoyé pour aller espionner ce qui se passait chez Napoléon, parce qu'il parlait plusieurs langues. Donc, officiellement, il faisait traducteur. Donc, il était dans le QG de Napoléon. Il était là-bas traducteur. Et comme ça, au passage, on se doutait pas de lui, parce qu'il avait un vêtement de chassid, on a dit, bon, qu'est-ce qu'il va faire déjà celui-là? Et donc, au passage, il a rapporté beaucoup d'informations. Et c'est en grande partie grâce à lui, et ça je vous montrerai après, j'ai les références, c'est en grande partie grâce à lui qu'il y a eu la victoire des Russes. Et d'ailleurs, grâce à ça, les Russes ont été reconnaissants envers le Rabbi, et ils ont donné à l'Admor Hazaken le titre de citoyen honorable. C'est un peu l'équivalent, comme on aurait dit ici en France, la Légion de, je sais pas quoi, la Légion d'honneur. Et ce certificat de citoyen honorable est un certificat qui a beaucoup servi au Rabbi de Lubavitch par la suite. Par la suite, il y avait des cas dans lesquels on devait enlever des décrets, il y avait des cas dans lesquels personne ne pouvait rentrer, et quand on se présentait avec ce papier, alors on te respectait. Parce que là-bas, dans ce papier, il disait « citoyen honorable pour lui et pour ses descendants ». C'était vraiment le top du citoyen honorable. En reconnaissance à l'aide qu'il a apportée, à la réussite de la guerre des Russes, d'accord, des Russes contre les Français.
Bon. Le manque de matérialité augmente toujours le côté spirituel, comme ce qu'on a dit par rapport à Napoléon, par rapport aux Russes,
oui.
L'un gagnait, l'autre perdait, enfin pourquoi?
Parce que c'est comme ça, parce qu'il a dit que quand les Juifs vont bien matériellement, ils oublient Dieu. Et quand ils vont mal matériellement, c'est là qu'ils se rappellent de Dieu. Et c'est la réalité nous a montré que c'est passé comme ça.
Alors dans ce cas-là, il n'y a qu'un mérite.
Non, mais c'est-à-dire la question était qu'est-ce qui était préférable pour l'homme Israël? Après, Dieu, il décidera. Mais nous, pourquoi on doit prier? C'est ça la question.
Mais c'était quoi la bataille?
Donc,
mais après, ce que je veux dire au niveau du mérite, c'est pas la même chose.
Bon, c'est dans notre sujet, on développera.
Non,
c'est
en Belgique.
En Belgique, c'est intéressant.
Non, non plus.
Non, j'avais le nom de la bataille de.
Qui a perdu Napoléon à cause des problèmes de logistique.
C'était une, à cause du froid, je crois. Du froid, c'est ça? Du froid.
Pas seulement, les problèmes de logistique. C'est surtout la logistique.
Bah si c'est la logistique, c'est correct.
Le nom de la bataille. Le nom de la bataille.
Ah, mais d'accord. Alors si c'est là, en tout cas.
Non,
Stalingrad, c'est après, 114.
Staline n'existe même pas.
114.
Pardon, excusez-moi, deuxième guerre mondiale. Stalingrad, c'est la bataille de Stalingrad.
Bon, peu importe. Ok, alors Rabotin, continue, on n'est pas là encore dans un cours d'histoire. On est là, rappelez-vous, simplement, en train d'essayer.
La Bérézina,
c'est la Bérézina.
Allez, les Chaïm. Nous, on est là simplement en train d'essayer de raconter la vie de l'Admour Hazaken pour essayer de mieux comprendre son ouvrage.
Bon, Wikipédia, vous allez trouver.
Voilà, Wikipédia. Donc, je continue. Donc, l'Admour Hazaken a décidé que lui, il allait donc être pour la victoire de. La victoire du tsar. Et c'est ce qui s'est passé, c'est le tsar qui a gagné. D'ailleurs, en passant, vous savez, il y a une histoire qu'on raconte chez les Chassidim. On raconte que le rabbi Shneur Zalman était à ce moment-là en Mahloket, d'accord, les Shem Shamaïm, bien sûr, avec un autre rabbi, à savoir qui devait gagner. Donc on a dit, est-ce que c'était Napoléon ou le tsar? Et ils avaient reçu une information dans le ciel qui disait que le prochain Rosh Hashanah, le premier qui allait sonner le shofar, c'est lui qu'on allait écouter. Ils ont reçu cette information. Alors, quand on a reçu cette information, alors bien sûr, les deux se sont levés tout de suite, ils n'ont pas dormi de la nuit, d'accord? Les deux n'ont pas dormi de la nuit pour être le premier à sonner le shofar. Et donc l'autre, c'était un autre rabbi, j'ai oublié son nom. Et donc l'autre rabbi a commencé, il a demandé à ses chassidim d'accélérer la tefila, ils ont accéléré la tefila. Et dès qu'il arrive au shofar, il a dit à ses chassidim, il leur a dit, ça y est, c'est trop tard, il a déjà sonné. Qu'est-ce qu'avait fait l'Admour Hazaken? Il avait sonné le shofar avant la tefila. Alors, c'est fermé. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est lui qui a gagné. Parce qu'on avait eu cette information dans le ciel, que le premier qui sonnera le shofar, c'est lui qui va gagner. D'accord? Oui, on a le droit de sonner avant la tefila, oui. C'est moutard, pas de problème. C'est pas le top, c'est pas dans le cadre de la tefila, mais l'Admour Hazaken l'a fait. Alors, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Mais la guerre n'était pas encore finie. Et malheureusement, l'Admour Hazaken va perdre la vie dans cette guerre. Enfin, à cause de cette guerre. Puisque le parcours de Napoléon passait à côté du village donc de Liozna, qui était donc le village de l'Admour Hazaken. Donc on a compris qu'ils devaient s'enfuir, parce que partout ils allaient, ils tuaient, ils pillaient, donc ils ont dû s'enfuir. Et c'était un hiver qui était particulièrement difficile, particulièrement froid. Donc l'Admour Hazaken avec sa famille et les chassidim qu'il avait avec lui, quelques dizaines de chassidim, ils ont pris la route. Et à un moment il a fait tellement froid que l'Admour Hazaken est tombé malade. Ils sont arrêtés à côté du village de Piena. D'accord, c'est un petit village paumé, j'aurais dit, hein, en français, vraiment un village paumé. Et là-bas, il s'est senti mal, il n'y avait ni docteur, ni rien, enfin, c'était vraiment la catastrophe, quoi. Et quelques jours plus tard, il est niftar. Il est niftar comme ça, et c'est là-bas qu'il a été enterré. Et bon, aujourd'hui, il y a une mausolée, etc. Aujourd'hui, l'endroit est devenu déjà plus important. Mais à cette époque-là, en tout cas, l'endroit n'avait rien de particulier. En passant, alors attends, j'arrive. L'Admour Hazaken, donc c'était la fin de la paracha. C'était la fin de la paracha Shemot. D'accord. D'ailleurs, même aujourd'hui, j'ai des amis qui sont partis en Russie. D'accord. J'ai des amis qui sont partis, pardon. Oui, c'est en Russie.
On a dit, pardon.
Piena. C'est un village qui s'appelle Piena.
Ils ont conservé le mausolée, Piena.
Oui, bien sûr.
Même durant. Ah, mais c'est devenu le. Durant Staline, même
durant l'Ukraine.
Oui, bien sûr.
Mais tu vas dans tout, il y a plein
de. Et plusieurs. Un jour, je vous raconterai des histoires avec la tombe là-bas. Et même, c'est même. Tu veux que je te dise, pendant des années, c'est même pas des Juifs qui ont gardé la tombe, c'était des non-Juifs qui gardaient la tombe. Bien sûr. Comme au Maroc, hein, voilà. Ils ont gardé la tombe. Non, ils étaient conscients que ça amenait la bracha dans l'endroit, ça a été préservé, ça a été. Aujourd'hui, il y a plein de juifs qui vont pour la Iloula de l'Admour Hazaken, qui est le 24 Tevet, ou bien pour son anniversaire de naissance, qui est le 18 Eloul. Donc il y a énormément, plusieurs milliers de personnes qui vont là-bas chaque année.
C'est où quel
Piena, je sais pas où c'est dans le. Je sais que c'est pas très loin de Berditchev. Maintenant, où c'est? Voilà, tu vois? Tu veux dans le GPS? Berditchev, c'est en Ukraine.
C'est un deuxième feu rouge, tu prends à gauche.
Piena, c'est au fond de la Russie. Voilà. Alors c'est la limite là-bas. Donc en tout cas, l'Admour Hazaken, il y a plusieurs histoires intéressantes qu'on a à propos du départ de l'Admour Hazaken. Alors justement, l'Admour Hazaken, on raconte que lorsque c'était donc le jour où il est niftar, c'était Motsei Shabbat, Parashat Shemot. Motzei Shabbat Parashat Shemot. Et donc Motzei Shabbat Parashat Shemot, l'Admour Hazaken, donc on a dit, était très malade. Il a fait la Avdala lui-même. D'accord? Il a fait la Avdala. Et donc, bien sûr, d'abord, avant, il avait fait Ma'ariv, la Avdala. Il a demandé qu'on lui donne un stylo, enfin, une plume et une feuille. Il a écrit une lettre de quelques lignes, Annefesh, qui s'appelle Annefesh Hachefela, une lettre très puissante, qu'on a pris des dizaines d'années avant de comprendre ce qu'il a écrit là-bas. Très, très puissante comme lettre. Ensuite, il s'est allongé. Et il s'est tourné vers son fils, l'Admour Ha'emtsaï, qui était avec lui. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vois ici? Alors, son fils le répond, il dit, il y a un plafond. Il dit, qu'est-ce que tu vois ici? Il dit, je vois un plafond. Et il dit, moi, je vois pas le plafond, je vois Dieu maintenant dans le plafond. Et là, on dit quelques instants après ça, Shema Israël, il est Niftar. Ce qui est curieux, c'est quoi? C'est que la même histoire s'est passée avec son fils, l'Admour Ha'emtsaï, juste avant son départ. Juste avant son départ, d'accord, on croyait qu'il était déjà dans le coma, etc. À un moment, il se réveille, donc là, c'était son petit-fils, lui, parce que, d'accord, il se tourne vers son petit-fils, il lui dit, qu'est-ce que tu vois ici? Il dit, un plafond. Même chose. Mais c'est pas un plafond que je vois la lumière de Dieu qui fait vivre le plafond. C'était comme ça.
On voit notre.
Tu restes avec nous, je t'en prie.
Je reste, ça arrive 5 minutes avant
la protection de Hachem.
Bon, c'était la Xéra. Il a fini sa mission sur Terre. Il a fini sa mission. Et donc en tout cas, l'Admour Hazaken, c'est comme ça. Donc il est Niftar là-bas. C'était le 24 Tevet. D'accord. Et du coup, donc le 24 Tevet, c'est devenu la Iloula de l'Admour Hazaken. Maintenant qu'on a fait cette introduction, en vérité, on va commencer principalement à étudier Tania la semaine prochaine. Mais on va prendre maintenant le Tania.
J'ai hâte d'y être.
Voilà. Acte 1. Alors, acte 1. On va prendre, regardez. Vous avez dans le Tania, vous avez devant vous des Tania normalement. David, t'as mis le Tania?
Oui.
Zach, c'est toi le responsable. Raïm.
On a été distribués. Pas partout. On n'en a pas assez de toi.
Alors, Baruch Hashem.
Ils ont été imprimés au mieux.
Il a fait acte 1.
Alors, l'Admour Hazaken.
Il a fait acte 1. Il a fait la page. La page de garde, c'est.
Donc, maintenant qu'on a compris tout ça. On va prendre la page de garde, c'est la page qui est comme ça. Vous voyez? C'est faire l'écouter à Marim. En gros, c'est écrit l'écouter à Marim. Non, avant, ça va, après encore. Là, vous avez cette page? C'est faire l'écouter. Voilà, parfait, celle-là. Parfait. Alors, l'Admour Hazaken, donc maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce que c'est le Tania? Et surtout, pourquoi il a écrit ce livre? Quel vide il est venu combler? Qu'est-ce qu'il n'y avait pas avant ce livre qu'il est venu combler avec ce livre? Alors, c'est vrai que c'est une question qui peut être très compliquée, d'accord? Parce que, surtout que quand on lit le Tania, vous savez, au Hachem ici, on a eu l'occasion d'avoir plusieurs résumés à la fin, à chaque fois qu'on étudie. Pourquoi on a fait des résumés? Parce que dans le Tania, il y a tellement de détails, que des fois, on peut se noyer dans les détails et perdre le fil et pas comprendre où il veut en arriver. Qu'est-ce qu'il veut? D'accord? Alors écoutez bien. C'est faire l'écouter à Marine. Le livre qui s'appelle L'Ikouté Amarim. Donc L'Ikouté Amarim, ça veut dire quoi? Le nom officiel du livre, c'est L'Ikouté Amarim. Recueil de paroles. Vous voyez déjà l'humilité? Recueil de paroles. Recueil, ça, recueil. Recueil de paroles. Chelek Rishon, premier tome, puisqu'il y a 5 tomes. Anikra Beshem Sefer Shel Benonim, qui est appelé aussi le livre des Benonim. Alors, le livre des moyens. Alors, vous allez me dire le livre des moyens, mais nous, on veut pas être moyen, on veut être au top. On veut pas être rachat et on veut pas être moyen, on veut être au top. Et ce qu'on verra dans la suite des présentations du Tania, c'est qu'il expliquera que être quelqu'un de moyen, tel que le Tania le définit, c'est déjà quelque chose de presque inaccessible. Mais on va expliquer pourquoi on l'appelle moyen dans ce cas-là, ça on expliquera. Donc, Anikra Beshem Sefer Shel Benonim, qui est appelé le livre des Benonim, Meloukat, Mipis Farim, Mipis Sofrim de Chez Elion. Donc, c'est un livre qui a été recueilli, Mipis Farim, ou Mipis Sofrim. De différents livres et de différents scribes. Alors, quand il parle de livres ici, il s'est basé principalement sur les écrits du Shnei Luchot Habrit, Rabbi Yeshaya Horvitz, qui est enterré à Tibériade, à côté de la tombe de Maïmonide. Il s'est basé beaucoup sur Shnei Luchot Habrit. Il s'est basé sur les écrits de Rabbi Menachem Mendel de Horodok. Il s'est basé sur les écrits du Maharal de Prague et sur les écrits du Rambam. C'est les 4 sources principales d'où l'Admour Hazaken a cité, d'ailleurs il les cite beaucoup. À part, bien sûr, la Gemara, etc., le Zohar. Mais je parle, les penseurs juifs qui l'ont marqué, c'était Maïmonide, le Maharal de Prague, Rabbi Menachem Mendel de Horodok et le Shnei Luchot Habrit. C'est 4 grands penseurs. Ça, c'est les livres. Donc, il dit qu'il s'est basé sur des livres. Ou Mipi Sofrim. ainsi que des différents scripts, c'est-à-dire de différents Talmidei Chachamim. Donc, les Talmidei Chachamim qui l'ont inspiré, c'était principalement le Magid de Meziritch, son maître, et Rabbi Menachem Mendel de Horodok, celui qui a remplacé son maître. C'était ses deux maîtres. C'était de eux qu'il a appris principalement toute sa Torah, ainsi que, de manière moindre, les deux qui ont donné l'approbation que je vous ai dit tout à l'heure. Deux aussi, il a tiré, mais c'était principalement du Magid de Meziritch et Rabbi Menachem Mendel de Horodok. Vdoshe Elion, Nishmatam Eden. Donc tout cela, c'est des gens qui sont saints, Nishmatam Eden, que leur âme repose en paix, parce que tous les compositeurs de ces livres et tous ces maîtres sont déjà décédés, donc il dit que leur âme repose en paix. Bon, on n'a toujours pas le sens du pourquoi il a écrit ce livre. Et c'est là qu'on a le titre du livre, regardez bien, c'est une ligne. Une ligne. Et dans cette ligne, en vérité, on a tout le Tania. Meyusad al-Pasuk, ce livre est basé sur le verset, Kikarov elecha adavar me'od, Beficha ou Vilvafra la Asoto. Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, quelques jours avant de mourir, il se tourne vers les Bnei Israël, et il leur dit, Veata Israël, et maintenant Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Rien. Kim Leira et Hashem, il attend juste que tu le craignes, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est tout, que ça. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, Kikarov Elecha Adavar Meod, Beficha ou Vilvafra la Asoto. Que la chose, donc je vais traduire. Parce que Bezrat Hashem dans le Tanya, vous allez voir que chaque mot de ce pasouk-là, on va le décortiquer. Kikarov elecha, car la chose est proche, la chose est accessible. Elecha pour toi. Ça veut dire que pour chaque personne du peuple juif, pas que pour les tzadikim, pas que pour les gens qui ont des grandes neshamot, pour chacun de nous, elecha, Dieu me parle à moi. Il te dit kikarov, pas eleinu, pas à nous, de manière collective. Elecha à toi. La chose est accessible pour toi. Mais od, et pas seulement accessible, très accessible. Ça veut dire que, y a pas d'excuse. Befira, ou Vilvafra, la Asoto. Dans ta bouche et dans ton cœur, la Asoto pour le faire. Ça veut dire quoi? La Gemara Zaken expliquera plus tard qu'en vérité, dans notre corps, nous avons trois vecteurs. La pensée, la parole, l'action. D'accord? Donc, Beficha ou Vilvafra, la Asoto. Là, il a dit, dans le pasouk, on dit dans un ordre différent, on expliquera pourquoi. C'est d'abord, Beficha, ça veut dire d'abord la parole, Vilvafra, c'est dans ton cœur, donc c'est la pensée, et la Asoto, c'est l'action. Trois vecteurs, pensée, parole, action. Et ça, c'est les seules choses sur lesquelles j'ai un libre arbitre. Sur tout le reste, j'ai pas de libre arbitre. Quelle nature j'aurai? Comment je serai? D'accord? Est-ce que je serai coléreux? Est-ce que je serai plutôt doux? Est-ce que je serai plutôt méchant? Ça, je peux pas maîtriser. Par contre, les paroles que je vais dire, les pensées que je vais avoir et les actions que je vais faire, je suis parfaitement maître de moi-même sur ça. Qu'est-ce que nous dit le pasouk? Ikarov elecha davar me'od beficha ou ilofra la asoto. La chose est accessible pour toi. Qu'est-ce qui est accessible? Tu peux maîtriser facilement ta pensée, ta parole et ton action. Le Va'er Etev, le but de ce livre, c'est d'expliquer, bien expliquer, Er ukarov me'od, comment il est très proche, Be'der arucha uksara, dans un chemin qui est long, mais qui est court, je vais expliquer tout de suite, Be'ezrat hashemit barer avec l'aide de Dieu. Donc j'ai raconté il n'y a pas longtemps cette histoire. Ça veut dire quoi un chemin qui est long, mais qui est court? Il est long ou il est court? D'accord? Et c'est la fameuse histoire. Il a raconté l'histoire. Bon, je vais la raconter pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, il y a une histoire que la Gemara raconte. Elle dit une fois, il y avait Rabbi Yochanan qui était dans la route. Et il était devant une intersection. Il était devant une intersection. Et devant cette intersection, il y avait un chemin à droite, un chemin à gauche. Alors, il y avait un enfant qui était posé là, qui était assis à cet endroit-là. Cet enfant, ça allait plus tard, un Talmid Chacham. Alors, le Rabbi Yochanan pose la question à l'enfant. Il lui dit, je vais arriver à telle ville. Donne-moi le chemin le plus court. Alors l'enfant lui répond, il lui dit, à droite, c'est le chemin long mais court, à gauche, c'est le chemin court mais long. Alors lui, il entend court mais long, long mais court, il dit, bon, moi, encore, court mais long. Ah, il a entendu court, il a pris le chemin court mais long. Donc il commence à marcher, il avance quelques kilomètres, la Gemara raconte, donc quelques parsaot, donc quelques kilomètres, et effectivement, il voit la ville de loin, et dès qu'il arrive devant la ville, il voit des barrages, des rivières, des champs qu'il faut contourner, etc. Des galères. Alors quand il voit ça, il a compris, il a dit ça va être trop compliqué. Il fait demi-tour, il revient à l'intersection. Il revient à l'intersection, il revoit l'enfant, il lui dit mais pourquoi tu me dis qu'il est court ton chemin? On n'arrive pas à la ville. Il a dit je vous avais dit, il est court mais il est long. Tu crois qu'il est court mais il est long. L'autre chemin, il est long mais il est court. Ça veut dire il est long, tu marches beaucoup. Et c'est comme les GPS, tu vois, quand tu vas aller dans une route, ils te donnent une route qui est 10 km plus longue, mais c'est plus court. C'est plus pourquoi? Parce que c'est plus rapide. Donc c'est long, mais c'est court. Alors, dit l'Admor Hazaken ici, le chemin qu'on va donner dans le Tanya, c'est un chemin qui est long, mais qui est court. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres approches dans la Chassidut. Il y a des approches dans la Chassidut, on a pris 8 ans pour le faire. Il y a des approches dans la Chassidut qui vont te dire, il faut tout de suite essayer d'arriver à des sentiments le plus vite possible. Des sentiments, une expérience de sentiments. D'accord? Ça, selon la Admor HaZaken, c'est pas un but. Arriver directement à des sensations, c'est pas un but. Parce que quand tu arrives avec des sensations, tu crois que tu as atteint quelque chose, mais dès qu'après que tu veux mettre ça dans la vie de tous les jours, il n'y a plus rien. Donc c'est un chemin qui est court, mais qui est long. Dit la Admor HaZaken, moi je proposais un autre chemin. Un chemin qui est long, qui est très long. Mais il est court dans le sens que tu es sûr que quand tu arrives à la destination, tu es arrivé. Ça veut dire que quand on va étudier le Tania, chaque brique qu'on posera, c'est une brique. Chaque étape que tu as passée, tu l'as passée l'étape. D'accord? Et là, vous allez voir, Bezrat Hashem, surtout pour ceux qui sont au deuxième passage, vous allez voir comment maintenant on va sentir comment on avance étape par étape et que mamash, c'est long, mais c'est court. Donc, Bezrat Hashem Yitbarech avec l'aide de Dieu. Je finirai avec ça, je vais développer un petit peu ici. Un des points sur lequel Admor HaZaken va s'arrêter beaucoup, et je pense que c'est un point qui nous concerne à tous, ça vraiment c'est un point qui m'a beaucoup marqué dans le Tania. Et en vérité, quand on lit le Tania, on voit que ça c'est le cœur du Tania. C'est ça ce qui l'a dérangé. Ce qui l'a dérangé, c'est le fait que le juif, dans sa vie, il vient un petit peu comme ce que mon père avait parlé la semaine dernière, le jour de son anniversaire. Il avait dit qu'un juif, dans sa vie, en vérité, on vient un peu comme des rêveurs. C'est quoi un rêveur? Dans un rêve, tu peux avoir une chose et son contraire. Et en vérité, dans notre vie, on a beaucoup une chose et son contraire. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Tu viens à la synagogue le matin, tu pries de tout ton cœur. T'es à fond dedans. Vraiment, t'es à fond dedans. Tu crois que ça y est, t'as attrapé les anges. D'accord? Des fois, ça peut arriver. Tu t'es vraiment à fond dans ta tefila, t'as pensé à la traduction des mots, t'as pensé au sens, t'as senti que tu as parlé à Dieu. T'as senti que Dieu t'a écouté. S'il va t'exaucer, ça, c'est lui qui décide. Mais tu sens que t'as parlé à Dieu. Tu sors de la synagogue, tu vas faire les affaires. C'est une autre personne.
Cauchemar.
On dirait que y a monsieur A, monsieur B. Là, c'est un grand sadique, là, c'est un grand rachat. Alors, tu te poses la question, tu dis, mais c'est qui le vrai Mendy Assouline? C'est celui qui était à la prière ou c'est celui qui était dehors? C'est qui le vrai? D'accord? C'est qui le vrai? Donc c'est un dilemme, selon l'Admor HaZaken, c'est un dilemme qui est constant dans la vie. Sur toutes les étapes de notre vie. Qu'on a constamment des choses dans lesquelles un moment tu sens que tu es comme un grand sadique car tu sens que tu es à fond dedans, et à un autre moment, tu sens que tu n'en as rien à faire, ça ne te dit rien. Alors tu dis, mais attends, mais qui je suis alors? À l'intérieur, qui je suis? Et donc, on voit que dans la vie, en vérité, il y a constamment une contradiction entre eux. C'est comme un rêve. C'est-à-dire, t'as une chose et son contraire qui se passe en même temps. Le pire, c'est quoi? C'est que si encore c'était espacé de plusieurs années. Quand plusieurs années je suis tzadik, après plusieurs années je suis rachat. Bon, il y a des phases. Mais quand dans la même journée, c'est la bourse. Une fois t'es tout en haut, une fois t'es tout en bas. Tu dis, mais c'est pas possible, il y a un problème. Alors, qui je suis, moi? Et bien, ce que m'expliquait l'Admor HaZaken, c'est que dans la même journée, on peut être un tzadik, rachat, tzadik, rachat, tzadik, rachat. Vraiment, c'est une idée très, très, très belle qui va expliquer cette Admor HaZaken. Qu'en vérité, ce qu'on va développer dans le Tania, pour répondre à la question qui je suis réellement, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est le Adam, qu'est-ce que c'est l'homme, qu'est-ce que c'est la Neshama, qu'est-ce que c'est le corps, comment le corps communique avec la Neshama. Quand je dis moi, c'est qui moi? Ça, c'est les questions qu'on va poser. C'est qui moi? C'est qui? Parce que c'est important de répondre à ces questions, parce que sinon, quand on va répondre à des questions existentielles, comme qui je suis, d'accord? Comme comment contrôler ma pensée, ma parole, mon action? Il faut d'abord que je sache qui je suis. Comprendre les combats qui se passent intérieurement, parce qu'il y a des combats qui se passent intérieurement, sans qu'on le sache. Quand on arrive à connaître les combats qui se passent de toutes les façons, d'accord? Exactement. D'après l'Admor HaZaken, vous savez, c'est pas pour rien qu'on appelle la Chassidut Chabad. Pourquoi la Chassidut Chabad? Parce que d'après l'Admor HaZaken, le plus difficile, c'est de comprendre quelque chose. Une fois que tu as compris quelque chose, tu le maîtrises. Le plus difficile, c'est de le comprendre. Ça veut dire, si j'ai du mal avec mon Yetzer Hara, c'est que je l'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui veut mon Yetzer Hara, j'ai pas compris ce qui veut mon Yetzer Tov. Donc comme j'ai pas compris, donc automatiquement je suis perdu dans ce combat. Si j'ai compris ce qui se passe, même si c'est difficile, mais quand tu comprends ce qui se passe, automatiquement, tu sais exactement où rajouter, où enlever. Et c'est pour ça que l'Admor HaZaken ici, dans tout ce livre, surtout dans les premiers chapitres, on va expliquer qu'est-ce que c'est l'homme. Qu'est-ce que c'est la Neshama. Quel combat se passe à l'intérieur. D'accord? Qui veut gagner? Pourquoi il veut gagner? Pourquoi l'âme divine veut gagner? Pourquoi l'âme animale veut gagner? D'accord? Comment ça se passe? Comment expliquer les différentes épreuves qui nous arrivent? Comment expliquer les événements qui nous arrivent dans la vie? On va expliquer tout ça, c'est très structuré pour montrer qu'il y a un plan d'Akadosh Baruch Hu et surtout pour expliquer les combats qui se passent intérieurement. C'est un chemin qui va être long, mais court. Court dans le sens, et je peux témoigner, que j'ai vu de mes yeux, c'est quelque chose que j'ai vu, c'est pas quelque chose qu'on m'a raconté, que chaque personne qui est venue au cours de Tania, j'ai vu de mes yeux comment au bout de quelques semaines il a changé.
Moi j'ai tout compris.
Ça change une personne. D'accord? Donc, Bezrat Hashem, d'accord? Donc en d'autres termes, voilà, la conclusion. Si vous vous attendez... David, c'est parce que vous avez compris que vous n'avez pas compris que vous avez tout compris.
Tu n'as pas pris.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui croit qu'il va venir au cours de Tania et qu'il va trouver des sensations, c'est pas ici.
Comment?
C'est pas ici. D'accord. Alors, d'accord. Il faut, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Avant de sentir que ça change sa vie, c'est pas le but. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, le Rabbi Shneur Zalman, l'Admor Hazaken, était très ami avec Rabbi Nachman de Breslev. Et à Bezrat Hashem, je vous raconterai aussi quelques anecdotes. Ils étaient très amis. Ils n'avaient pas la même chita. Rabbi Nachman de Breslev, lui, partait du point de vue qu'il faut amener la personne le plus vite possible à des sensations. Après, le reste, il fera tout seul. Rabbi Shneur Zalman n'était pas d'accord. Parce que Rabbi Shneur Zalman disait, d'après moi, quand une personne arrive très vite à des sensations, c'est un chemin qui est court, mais qui est long. Parce qu'après, il rentre chez lui, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Alors, Rabbi Nachman, il dit, bah, c'est pas grave, il va recommencer. Rabbi Shneur Zalman dit, non, moi, je préfère quelque chose de durable. Mais même si c'est très très long, c'est long, c'est-à-dire que tu prends du temps avant de voir les résultats. Mais c'est quelque chose qui est du solide. Ça veut dire qu'une fois que tu arrives à la destination, tu arrives à la ville, tu es arrivé à la ville. C'est pas que tu dois faire encore des détours et que tu dois passer par des ronces et que tu dois passer par différents chemins. Donc ça c'est le titre, ça c'est le titre du Tania. Et donc Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, on va commencer par l'introduction. Alors il appelle ça, l'Admor Hazaken encore dans son humilité, il appelle l'introduction de celui qui a fait le recueil. Pour dire voilà, moi j'ai rien fait, j'ai fait qu'un recueil. Et donc dans son introduction, il va expliquer pourquoi il a écrit ce livre. Il va expliquer qu'en vérité, à la base, ce livre-là, il voulait pas l'écrire. Il aurait préféré répondre en personne à chacun qui vient lui poser des questions. Il aurait préféré qu'une personne qui se sent pas, qui a des questions dans, qui a des questions sur la pensée juive, une personne qui a des questions sur sa neshama, qui vienne le voir, qui vienne voir un rabbin et que le rabbin lui explique. Il va expliquer pourquoi il est arrivé à la conclusion qu'il faut écrire un livre. Et il va dire dans l'introduction que dans ce livre, écoutez bien, c'est pas moi, c'est lui qui le dit, hein, que dans ce livre, on peut trouver les réponses à toutes les questions. À Tshuvot, les Chol Hashelot, mais que, il demande aux rabbanim de chaque ville, donc aux rabbanim chassidim de chaque ville, à aider les gens à trouver les réponses aux questions qu'ils ont dans ce livre. Parce qu'il dit, moi, ce que j'ai fait ici, j'ai rien inventé. J'ai pris simplement des choses qui sont écrites dans la Torah, et j'ai recueilli les réponses. Et donc, l'Admor Hazaken a vu les questions qui lui venaient pendant déjà plus de 40 ans, donc les questions que les gens lui posaient, en Vodat Hashem, et en se basant sur ces questions, il a composé le livre du Tania. Et on dit que chez les Chassidim, on dit que l'Admor Hazaken, quand il a composé le Tania, il a pensé pas seulement aux Chassidim qu'il connaissait, mais il a pensé à toutes les Neshamot qui un jour étudieront le Tania. C'est un tzadik, c'est pas quelqu'un comme nous. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, si on est assis ici, d'accord, en 2013, en train d'étudier le Tania, et ben, l'auteur du livre, il a pensé à toutes les Neshamot, même à un petit Neshama qui est en train d'étudier ce livre-là, et mes questions sont répondues dans ce livre. Mais ça prend du temps. D'accord? Donc on va dire les chaim, que, comme on dit quand on finit un traité de Gemara, keshem sha'azartani, de la même manière que Akadosh Baruch Hu. Allez, David. Oh là,
vas-y, il tient pas.
Alors, Dan. On va demander à Akadosh Baruch Hu, keshem sha'azartanu, de la même manière que tu nous as aidés, à terminer le livre de Tania une première fois. Bezrat Hashem, on va terminer aussi Bezrat Hashem avec ça une deuxième et une troisième fois jusqu'à l'avenue de Mashiach. On va terminer par une chanson. Une chanson, mais d'abord je vais vous traduire cette chanson avant de la chanter.
Trois fois jusqu'à l'avenue de Mashiach, ça fait encore 14 ans.
Mais quand Mashiach il viendra, on étudiera le Tania. Alors, on va chanter une chanson d'abord, 2 secondes. Donc on va d'abord chanter une chanson. Et cette chanson, je vais d'abord la traduire.
C'est le dernier vers, tu vas les tuer.
On dit tous les jours dans la tefila, Ashreinu matov chelkenu, umanaim goralenu, umayafa yerushateinu.
Baisse la main, baisse la main.
C'est bon.
Tous les jours, on dit dans la tefila.
Allez.
Très vrai. Tous les jours, on dit dans la tefila. Ashreinu matov chelkenu umanaim goralenu umayafa yerushateinu. Traduction. Ça veut dire, on dit, combien nous sommes heureux. Vous avez dit les chaïm ou pas? Ils veulent dire les chaïm.
David.
Ça quitte.
Voilà. Il y avait le mec de mérite des riches dans la ville et dans l'autre ville, là où il a choisi de faire.
Non,
où il devait faire votre étude au début, il a fait partir.
Villain.
Attends, je me resserre du coup.
Pourquoi il n'a pas été bien bien. Pourquoi il n'a pas.
Tiens, tiens, tiens.
Il était en contact avec Villain aussi. Pourquoi il n'y a pas eu de lien. Enfin, je ne sais pas.
Même pas après, il a été. Comme on a dit, ils n'ont pas. Ils n'ont pas réussi à connecter. Alors. Je reste avec plaisir.
C'est quoi l'air alors?
Là, il y a, d'abord, je veux traduire. Je traduis. Il y a un verset qu'on lit, tous les matins dans la tefila. On dit, Ashreinu matov chelkeinu umanaim goralenu ma'efa yerushatenu. On dit, nous sommes heureux. Ashreinu matov chelkeinu, combien notre part est belle. Umanaim goralenu, et combien notre chance est magnifique. Ma'efa yerushatenu, et combien notre héritage est beau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné la chassidoute, qui donne un sens à notre vie. Parce qu'on aurait pu, passer à côté. On aurait pu rester des bons juifs, qui étudient la halakha, qui étudient la gemara, mais sans forcément avoir ce sens profond que la chassidoute nous a donné. Donc on va remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné Rabbi Shneur Zalman, de nous avoir donné les rabbis qui nous ont expliqué le Tanya. Et c'est pour ça qu'on va dire Ashreinu Matov Chelkeinu. Ashreinu Matov Chelkeinu Umanaim Goralenu. Oh, Ashreinu Matov Chelkeinu Umanaim Goralenu. Hai da la la la, hai da la la la, la 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 la, ya ya. Ha la 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 la, la la la. Ala la la la, ala la, ala la la la, la la. Ashreinu matov chelkeinu, umanaim goralenu. Ashreinu matov chelkeinu, umanaim goralenu. Hai da la la la, da la la, la 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 la. Ashreinu matov chelkeinu, umanaim goralenu. Maintenant je vais vous raconter une histoire, après on s'arrêtera là. On peut rester toute la nuit avec le Tania, vraiment des choses. J'ai pas fini mes notes.
On a de la réserve.
Ne vous inquiétez pas, on a encore des années devant nous.
On va pas finir aux mêmes horaires que d'habitude, ça voudrait dire que c'est un normal.
Je vais terminer avec une histoire. C'est une histoire qui se passe pendant l'été en 1981. Une histoire autour du Tania. Donc c'est une histoire qui se passe pendant l'été 1981. Le Rav Aaron Dov Halperin, encore vivant Baruch Hashem, qui est le responsable du magazine Kfar Chabad, a reçu une mission du Rabbi. Le Rabbi lui a dit, est-ce que tu peux aller rendre visite aux différents shluchim dans le monde et faire des articles dans ton journal sur les actions des shluchim dans le monde? C'est ce que le Rabbi lui a demandé. Donc il est parti comme ça, et un de ses voyages, il est parti à Los Angeles. Il est parti à Los Angeles, et de Los Angeles là-bas, il est parti à une ville qui s'appelle, alors on l'appelle S. Simcha Monica. J'ai pas envie de dire l'autre, d'accord?
Simcha Monica.
Bon.
Il y a Barbara, il y a
Barbara. Vous savez, parce que le Rav qui était là-bas, c'est le Rav Levitansky. Le Rav Levitansky, il a posé la question au Rabbi quand il est parti, quand le Rabbi l'a envoyé. Il lui a dit, comment elle s'appelle, le ville? Le Rabbi lui dira Simcha Monica. Alors attendez.
Il y a une belle plage là-bas.
Et donc.
Barbara, ils ont fait la Hanouka en Lego.
Alors. Donc, le Rav Halperin raconte qu'il est parti donc en mission du Rabbi, il est parti à Los Angeles, et de là-bas après, il est parti donc à Simcha Monica, il a rencontré le Rav Levitansky, qui est le responsable Chabad local.
C'est Monica Levitansky.
Et,
pardon.
Et c'est les Chaïm qui parlent. Alors.
C'est pas la maison blanche.
Et donc, il a rencontré là-bas le Rav Levitansky, qui était là-bas. Et après, de retour, il devait repartir à Los Angeles, il avait son avion. Donc il avait son avion, et donc il devait reprendre la route, il devait prendre un bus pour aller de Simcha Monica à Los Angeles. Et il y a quelqu'un, un juif qui lui dit, un juif local qui lui dit, écoutez, pourquoi vous prenez le bus? Moi je vais vous accompagner, de toute façon je vais aller là-bas. Donc il l'a accompagné. Et alors il raconte le rab, il dit, le nom de ce juif-là, je l'ai jamais oublié, pas parce que j'ai une mémoire particulière, mais parce que ce juif s'appelait Chaim Weizmann. Et il dit, il n'a rien à voir avec le Chaim Weizmann qui était le président de l'État d'Israël, c'est un autre. Mais bon, il dit en tout cas, le nom il m'a marqué, je me rappelle de son nom. Alors, il dit comme ça, il dit, écoutez cette histoire. Le Rav raconte, il dit, écoutez cette histoire qu'il m'a racontée pendant la route. Une histoire extraordinaire. Donc, ce monsieur qui était avec lui, ce Chaim, qui l'accompagnait, dans la voiture, il lui raconte, il lui dit, vous savez, moi, je suis né à Boston. Je suis né à Boston à des parents traditionnalistes. Traditionnalistes dans le sens, pas dans le sens qu'ils font Shabbat, dans le sens que bon, ils font peut-être Kippour, de temps en temps, ils vont pour les fêtes à la synagogue, mais vraiment très très loin de la Torah. Il raconte, il dit que quand j'étais encore très jeune, mes parents sont partis à Hong Kong. Mon père a été muté à Hong Kong pour son travail. Donc c'est là-bas que j'ai grandi. Et malheureusement, là-bas à Hong Kong, il n'y avait pas encore de communauté juive développée. Donc, on a quitté le chemin de la Torah. Voilà. J'ai grandi comme un enfant d'Hong Kong. J'ai grandi comme ça, sans la Torah. Il raconte, il dit, ensuite, quand j'ai grandi, mes parents m'ont envoyé à Oxford, en Angleterre. J'avais aucun rapport avec le judaïsme. À cette époque-là, il n'y avait pas encore des betrabal. Là-bas, il a rencontré une jeune fille. Non juif, bien sûr. Et au bout de quelques années d'amitié, ils ont décidé de se marier. Et là, quand il a annoncé à ses parents, d'accord, ses parents, ils ont commencé à s'énerver. Ils ont dit, comment tu peux faire ça? Ils ont dit, c'est vrai qu'on n'est pas religieux, mais on veut pas que tu te maries avec une non-juive, il faut te marier avec une juive, c'est très grave. À tel point, c'est arrivé une situation que les parents, à chaque fois, pour négocier, ils disaient, bon, repousse un peu le mariage, repousse un peu, parce que les parents espéraient qu'avec le temps, il allait comprendre. Un moment, l'autre, elle lui faisait de la pression, d'accord? Donc lui, il est parti voir ses parents, il leur a dit, voilà la date du mariage, je me marie à Londres, donc ses parents habitaient encore à Hong Kong, je me marie à Londres, si vous voulez venir, Baruch Haba, vous venez pas, tant pis.
Baruch Hashem.
D'accord? Il est bien servi, hein, alors, je veux la même chose. Alors.
C'est lui qui sait, alors.
Ah oui, ça va.
Si vous venez, Baruch Haba, si vous venez pas,
Baruch Hashem. Alors, donc, ses parents ont répondu, on viendra pas. Il raconte, écoutez l'histoire, il raconte. Il dit, au début de la semaine, juste après, j'étais en vacances, juste après les vacances, j'ai pris un avion pour aller à Londres. Et là-bas, quelques semaines plus tard, c'était mon mariage. Dans le chemin, il y a eu plusieurs escales. Et il raconte, il dit, vers la fin du vol, quelques dizaines de minutes avant qu'on atterrisse à Londres, j'entends tout d'un coup un appel à l'eau-parleur qui dit, votre attention s'il vous plaît, s'il y a un juif dans l'avion, il est prié de se manifester. Lui, il entend ça. C'est la première fois qu'il entend ça dans un avion, il n'a jamais entendu ça dans un avion. Alors tout de suite, il se lève, il va voir une hôtesse, il dit, excusez-moi, je suis juif, qu'est-ce qui se passe? Alors il dit, ah, venez, je vais vous amener là-bas. Elle amène à côté donc du pilote, et à côté du pilote, il y avait un rabbin qui était en train de rendre fou le pilote. Alors le pilote qui est à côté, il lui dit, excusez-moi monsieur si on vous a interpellé, il y a ce rabbin qui est là depuis le début du vol, il n'arrête pas de nous casser les pieds, il nous dit qu'il y a un juif dans l'avion qui doit le rencontrer, et qu'il n'arrive pas à le trouver. Alors il n'arrête pas de nous saouler, il dit, maintenant écoutez, si vous êtes juif, vous êtes libre, vous pouvez repartir, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il vous a tellement saoulé qu'il fallait qu'on lui fasse ça. Alors, l'autre dit, non, il n'y a pas de problème, je vais discuter avec lui, qu'est-ce qu'il veut? Alors il se met à parler avec le juif, et le rabbin, il lui sort un tanya de sa poche. Il lui dit, tenez, ce tanya est du rabbi de Lubavitch. Elle lui dit, attendez, ouh, rabbi de Lubavitch, ce tanya, de quoi vous parlez là? C'est quoi ça? Elle lui dit, je vais vous expliquer. Vous me voyez rabbin comme ça, mais en fait, moi, je suis businessman. Je travaille dans les diamants. Je voyage beaucoup dans le monde et je suis proche du rabbi. Je serai proche du rabbi. La semaine dernière, j'étais chez le rabbi en Yéhidout, en entrevue privée. Je lui ai raconté que j'allais aller à Hong Kong et à Londres. C'était mes deux destinations. Et avant de sortir du bureau du rabbi, le rabbi a ouvert son tiroir, il a pris un tanya, et il m'a dit, des fois on peut rencontrer des gens dans l'avion, ça pourra vous servir. Donc depuis, tous les vols que j'ai pris, chaque vol que je prends, je les rends fous pour dire, si le rabbi dit ça, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, donc il dit, voilà, maintenant, je suis arrivé à Londres, je vous ai rencontré, etc. Donc certainement que le rabbi a pensé à vous. Il dit, bon d'accord, votre rabbi, je sais pas ce que c'est là, mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce livre? Alors, c'était un livre qui était écrit, que le petit tanya en hébreu, c'était pas un tanya traduit en anglais. Le petit tanya, le rabbi donnait les petits tanya, encore plus petit que celui-là. Petit tanya comme ça, tanya de poche. Alors, le rav a pris un livre, il a pris le livre du tanya, et au hasard, il a commencé à traduire comme ça, quelques lignes. Il y a une ligne sur laquelle il est tombé, dans laquelle, c'est la ligne du Perek Yutred, du chapitre 18, dans lequel on étudiera Bezrat Hashem, dans laquelle il disait que, à Filou, à Yehudi, à Garoua, Beyoter, même le juif le plus loin de la Torah, Moser Navshu al Kiddush Hashem, il est prêt à donner sa vie pour un Kadosh Baruch Hu. chapitre 18. Et dès que l'oreille m'a dit ça, pac, ça a percuté. Il dit, mais c'est vrai, mais c'est ce que mes parents me disent. Mes parents me disent, même si on n'est pas religieux, il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que c'était quoi l'argument qu'il avait envers ses parents? Il a dit, mais vous n'êtes pas religieux, qu'est-ce que vous me voulez? Vous me prenez la tête, vous n'êtes pas religieux, vous êtes pas religieux, laissez-moi tranquille. Et ses parents l'avaient dit, non, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et quand il a entendu le rabbin qui lui sort ça, qui lui dit, même celui qui est très très loin de la Torah, mais il est prêt à donner sa vie pour Dieu, là il raconte, il dit, là ça m'a marqué. Et donc, j'ai demandé, donc le juif m'a dit, donc le rabbin lui a dit, tenez, vous pouvez prendre le livre, et il a gardé le Tania. Et il a dit, après, chaque fois que je voyais ce livre, pendant les jours qui suivaient, ça me trottait. Alors au début, j'ai repoussé le mariage. Puis il y a ma fiancée, j'ai dit, bon, on va attendre un petit peu. Repoussé, jusqu'à la fin, grâce à Dieu, je ne suis pas marié avec elle. Alors, la suite de l'histoire, c'est que ce juif raconte comme ça. Il dit, je suis, grâce à ça, je remercie le rabbi, et ce Tania, c'est un Tania que j'ai toujours sur moi. Grâce à ce Tania, je suis revenu au chemin de la Torah. Alors peut-être que j'ai pas une apparence de juif orthodoxe, etc. Mais je suis shomer Shabbat, je fais mes mitzvot, je fais mon Shabbat, j'ai une famille juive, je suis marié avec une juive, j'ai des enfants. Et il raconte, je rencontre souvent les étudiants, parce que à Simcha Monica, il y a plusieurs universités à côté. D'accord? Santa
Monica.
Alors.
Simcha Monica.
C'est aux États-Unis, Santa Monica. Alors.
C'est à côté.
C'est Santa Benita, là.
C'est 2000 jumelles.
Il s'est réveillé, monsieur Benita.
Alors, maintenant, on est percuté. Alors, il raconte, il dit que depuis, bon, il est occupé, il dit, je suis beaucoup occupé par mes affaires, mais dès que je peux, je demande au Rav de m'inviter pour aller parler aux étudiants, et dès que je parle aux étudiants, je leur ouvre le Tania, première page, la page qu'on m'a montrée, et je leur dis, vous devez savoir que peu importe ce que vous faites dans la vie, il y a des choses qui ne se font pas, ne vous mariez pas avec des non-juifs. Et il raconte, il dit, grâce à ça, non seulement que moi je ne suis pas marié avec une non-juive, mais j'ai pu convaincre plusieurs jeunes de ne pas se marier avec une non-juive parce que le message les a marqués, que même si on n'est pas religieux, on reste quand même juif et il y a des choses qui ne se font pas. Alors, là, c'est la fin de l'histoire, hein. C'est que quand le Rav Halperin, il a entendu ça dans ce parcours, quand il est arrivé, il était vraiment impressionné. Alors, il a tout de suite envoyé un fax au Rabbi pour raconter cette histoire au Rabbi. C'est une histoire qui l'a marqué. Et le Rabbi a répondu tout de suite, il a répondu comme ça, je vais vous lire dans les mots, il a dit, En leit pal el klal al godel atzlacha des sham. Il n'y a pas de quoi s'étonner sur la grande réussite qu'on a là-bas, donc à Simcha Monica. Share uftachnu yagata umatsata, parce que Dieu nous a assuré que quand on se fatigue, on a des résultats. Chez l'olefi eyer et geaklal, que pourquoi c'est écrit que quand tu te fatigues, tu vas trouver. Trouver, c'est une trouvaille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résultat qu'Akadosh Baruch Hu donne suite à notre travail, c'est de manière incommensurable, c'est beaucoup plus que les efforts qu'on a fournis. Donc, les rabbinis là-bas, ils se sont investis et ils ont des résultats, Baruch HaShem, ils ont sauvé des dizaines et des dizaines de juifs, grâce à Dieu, de ne pas se marier avec des non-juifs et encore mieux, d'être Shomer Torah Mitzvot comme il se doit. Ça, grâce à quoi ça a commencé à croire? Grâce à une ligne du livre de Tania. C'est pour ça que le rabbi, toujours, le Tania, c'était très important. Bon, je finis encore avec une histoire, après je m'arrête là, excusez. Sinon, on peut en continuer encore. Une fois, hein, il y a une personne.
Il faut servir.
Le Chaim.
Il faut servir.
Ah, c'est une anecdote.
C'est bon, France arrête.
Une anecdote. On raconte qu'une fois, il y a un rave qui est venu voir le rabbi et qui lui a posé la question. Qui lui a dit, pourquoi chez vous les Lubavitch? Et quand quelqu'un commence à dire pourquoi chez vous les Lubavitch, tu t'attends qu'il va te. D'accord?
Déjà, il s'est exclu.
Pourquoi chez vous les Lubavitch? Dès qu'on commence à étudier la Torah avec quelqu'un, tout de suite on apprend le Tania avec lui. Tout de suite Tania. Oui, mais attendez. Il dit, est-ce que c'est pas mieux d'abord de commencer d'abord par la halakha, par lui apprendre, je sais pas, mais lui apprendre encore la base. Et après, apprenez-lui le Tania. C'est bien le Tania, mais d'abord, apprenez-lui les autres choses. Et qu'est-ce qu'il a dit ce Rav? Ce Rav, il a donné un exemple que j'avais mené une fois dans un cours. Il avait dit, c'est comme si t'as une personne qui est tout nue et tu lui mets une cravate. C'est bien une cravate, mais la cravate, tu la mets après avoir mis les autres vêtements. Donc il lui a dit, le Tania, c'est comme une cravate. La cravate, on la met après avoir mis les autres vêtements. Le rabbi lui a répondu comme ça. Il lui a dit, c'est en mettant la cravate qu'il va réaliser qu'il est tout nu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi le but du Tania? C'est de lui faire comprendre que c'est un juif et qu'il doit retourner vers Hachem. Une fois qu'il a compris ça, bien sûr, après il passe à la halakha. C'est pour ça que chez les Chabad, la première chose qu'on apprend, c'est le Tania. première chose qu'on apprend, c'est le Tanya, pour comprendre qu'on doit revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et quand on a compris ça, automatiquement, on trouve du temps pour revenir à d'autres shiurim encore et apprendre encore beaucoup d'autres choses. Donc, les chaim, que Bezrat Hashem, que chacun de nous revienne maintenant à la deuxième saison du cours de Tanya. D'accord? Et comme ça, Bezrat Hashem, on avancera et Dieu nous aidera d'avoir du résultat dans notre travail, un résultat incommensurable, encore beaucoup plus que les efforts qu'on va fournir. Chaim. Une chanson pour David, dédiée pour David.
Il faut quelqu'un qui ramène Dan.
Il a bu.